Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Donc, on va essayer de réfléchir un peu ensemble, si vous voulez, sur ce thème, qui est surtout un thème, en fait, un peu de connaissances, mais beaucoup d'énergie. Après, vous verrez, vous apprécierez vous-même s'il y a plus de connaissances que d'énergie, mais c'est très, très important quand on aborde la réalité, quelle qu'elle soit, la réalité familiale ou la réalité avec Hachem, est-ce que l'aborder avec une bonne énergie, avec une mauvaise énergie? C'est-à-dire, est-ce qu'on est positif et plein de Shekhina, ou alors on est plein de Hamma et. Donc c'est marqué, Lama Nistera, Lama Tomar Yaakov Nistera Darkim Yachem. Il a dit, pourquoi est-ce qu'il dit Yaakov, pourquoi tu dis Yaakov Nistera Darkim Yachem, mon chemin est caché d'Hachem. C'est un langage un peu spécial. Le Midrash il dit, Mirolam lo Amar Yaakov Davar Batel Elakan. Jamais Yaakov il a dit une chose inutile, sous-entendu une bêtise, si ce n'est cette fois-là. Pourquoi? Amar Akadosh Baruchu, Ani Asuk Leamlich Et Beno. Moi je suis occupé à rendre son fils roi, Yosef. Véomer, Lama Réotali, et lui il dit, pourquoi vous m'avez fait du mal? Lama Tomar Yaakov Nistera Darkim Yachem. Pourquoi tu dis Yaakov, mon chemin est caché d'Hachem? C'est-à-dire quoi? Maintenant, on parle de quel événement? Maintenant, Yaakov il vient d'apprendre que son fils est mort. Comme ça il pense, son fils Yosef est mort. Maintenant il s'angoisse, il stresse, c'est normal. Oui, quelqu'un il apprend qu'il a perdu 5 millions d'euros, ou Chas v'Shalom que sa femme est malade, ou que son fils est mort, et il angoisse. Sur le moment, qu'est-ce qu'il a dit? La manistera d'Arki, pourquoi mon chemin est caché de Dieu? Alors maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais comment ça se fait que tu te plains? Encore tu râles, encore tu pleures. Moi, je suis en train de rendre ton fils roi. Oui, parce qu'en fait, Yaakov, Yosef, il n'est pas mort. Il a été vendu, et il va arriver en Égypte, et ensuite, il va être esclave, et ensuite, il va être nommé vice-roi d'Égypte. Mais, donc, c'est bizarre. Mais lui, Yaakov, il ne le sait pas, tout ça. Je sais pas si vous me suivez. Il ne le sait pas. Donc maintenant, on lui reproche de se plaindre. Mais il se plaint de quoi? De ce que lui, il a devant lui. Lui, ce qu'il a, c'est quoi? C'est que il pense que son fils est mort. On lui amène la tunique ensanglantée de son fils. Donc lui, il pense que son fils est mort. Donc il se plaint. Genre, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? C'est ce qu'il dit. Lama Tomar Nistera, Nistera Darki. C'est quoi Nistera Darki? Nistera, c'est terre, c'est caché. Darki, c'est mon chemin. Genre, Hachem, il s'est caché de moi. Quand on dit le Esther Panim, ça veut dire la face d'Hachem, elle s'est cachée. Comment on dit en anglais? La Esther. Ouais. C'est quoi la Esther? Les gens, ça veut dire la Esther. La traduction de la Esther, pour les gens qui ne sont pas anglophones, c'est à la Esther, ça veut dire Hachem cache. Hachem cache. Oui? Nous, on appelle ça Esther Panim. Ça veut dire que Hachem, Chas v'Shalom, quand il tourne sa face. On peut expliquer très simplement, c'est comme si un père. Gardez les commentaires pour après. C'est comme si un père. Il dit à son fils, écoute mon fils, t'as été trop loin, je veux plus te voir. Le père, le fils, il dit, écoute papa, insulte-moi, maudis-moi, frappe-moi, mais ne tourne pas ta tête. Comme le père, il veut pas le regarder, voilà, je veux pas te voir, je veux pas te voir. Ça s'appelle Esther Panim. Ça, c'est Hazé Shalom. Hachem, on veut pas nous voir. Ouais, le contraire, qui sapana velecha, quand Hachem, il va tourner sa face vers toi, c'est bon. Ta femme, elle te regarde, ton mari, il te regarde, ton père, il te regarde, c'est bon, il te regarde. Maintenant, il te dit, je veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. T'as compris? C'est fini. Terminé. Là, c'est le pire. Tu dis, frappe-moi, ne me dis pas un mot pareil. Oui, une attitude comme ça, de Esther Panim. Ça veut dire que Hachem, quand il tourne sa face vers nous, ça s'appelle la Hashgacha. Hachem, il intervient. Quand Hachem, il cache sa face, ça s'appelle que Hachem, il nous dit, je vous laisse dans le Hefker. Je vous donne en pâture à tous les animaux de la terre, les nazis, les trucs comme ça. Oui, c'est ça Esther Panim. C'est qu'il nous laisse au hasard, il nous laisse à la souffrance, il nous laisse tu dis, mais il n'y a pas de hasard. Alors, faut savoir, c'est quoi le hasard? Enfin, maintenant, le hasard, il existe. Il y a deux Hashgachot. Il y a Hashgacha Klalit, Hashgacha Pratit. Ou Hachem, il s'occupe de toi particulièrement, ou Hachem, il s'occupe de toi dans la masse. Hashgacha Klalit, c'est dans la masse. Maintenant, si toi, tu vas avoir une relation particulière avec Hachem, donc comme toi, tu as un lien particulier, alors lui, il a une relation particulière. Maintenant, si toi, tu vas avoir un lien global, il y a des gens comme ça. Vous savez, moi je suis pour la mondialisation, nous sommes tous citoyens de la planète Terre, on est tous pareils, on est tous humains, on est tous des êtres humains. Alors comme tu veux être comme tout le monde, donc le bon Dieu te gère comme tout le monde. Maintenant dans le comme tout le monde, il y a la conjoncture, il y a la grippe aviaire, il y a la Trelawney, il y a des statistiques. Il nous faut 32 783 personnes qui meurent cette année de la grippe, c'est statistique. Il en manque deux, prends ces deux-là, ils servent à rien. Mais comment ils servent à rien? Tu l'attrapes, tu dis, quel est le but de ta soirée? Ce soir, si Dieu veut, je vais revoir pour la 8e fois la vache et le prisonnier. Donc il sert à rien celui-là. Tu dis, bon, tu veux sauver ton couple? Il n'y a pas d'espoir. Mes enfants, j'y crois plus. L'avenir, c'est au passé. Alors tu dis, bon, celui-là, déjà, il est rayé déjà. T'as compris ou non? C'est pas que Chas v'Shalom, Hachem, il est méchant, il veut le détruire. Non, 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 lui-même, il a dit, c'est foutu. des gens comme ça, des gens qui meurent de leur vivant. Comment on appelle la mort après la mort? Il y a la mort et après la mort. Comment on appelle la mort après la mort? Vous savez ou non? Quelqu'un, il est mort. Il est mort, normalement. Bon, il est mort, il est mort. Non, comment quelqu'un, il est mort et il meurt à nouveau? Comment on appelle la mort après la mort? Vous savez pas? Remords. C'est joli, ça. C'est nouveau. Oui. Tu meurs et tu remeurs. Il y a des gens, ils n'arrêtent pas de mourir. Ils se lèvent le matin, je suis crevé. Ils rentrent le soir, je suis mort. Ton couple, c'est mort. Le magasin, c'est mort. Le marché, il est mort. La bourse, c'est mort. Il n'y a que des morts. C'est incroyable, on dirait des croque-morts. Ouais. Même sa femme, elle ne comprend pas. Il parle que de la mort. Elle lui dit, tu veux que j'appelle la Khevra Kadisha? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quelqu'un, il génère? Alors les psychiatres, ils disent, tu projettes la mort que tu contiens. Il y a des gens ici, ils ont une plaque, ils ont une pierre tombale, c'est marqué Sigil la joie. Et là où ils vont, ils transportent leur mort comme ça. Parce qu'on dit la vie, elle vient avec le souffle, et la mort, elle vient avec le souffle, comme ça elle dit la Gemara. Comment quelqu'un il est vivant? Parce qu'il a un premier souffle. Pourquoi on fait pleurer les bébés quand ils naissent, vous savez ou non? Non? Ouais, tous les accouchements que vous avez faits, vous savez pas. Pour vérifier qu'il respire. Parce que quand il pleure, c'est qu'il respire. Alors on lui tape le derrière, il pleure. Donc il pleure, il respire. Comment quelqu'un il meurt? C'est le dernier souffle. Un espèce de râle comme ça, il meurt. Donc la vie, elle commence par un souffle, la vie, elle part par un souffle. C'est vraiment facile. Maintenant, le problème, c'est que le souffle, c'est la neshima. C'est aussi le signifiant de la neshama. Tant qu'il y a la neshima, il y a la neshama. Maintenant, ce n'est pas seulement le signifiant, le représentatif de la neshama, c'est aussi la gestion de la neshama. Il y a des gens qui soufflent, d'accord? Il y a des gens qui respirent, il y a des gens qui inspirent, il y a des gens qui expirent. Tu décides ce que tu veux. Maintenant, les pires, c'est ceux qui soupirent. Parce que la nature de dernier souffle, c'est un soupir. Comment les gens ils meurent? Ils ont un soupir. C'est le dernier souffle, comme ça ils meurent. Maintenant, quelqu'un qui est mort le jour de sa mort, on ne peut pas lui en vouloir puisqu'il est mort. Mais qu'est-ce qu'on va faire des gens qui meurent toutes les 5 minutes? Ils soupirent toute la journée. Encore ils soupirent. Ah, ça ne marchera pas. C'est trop difficile. J'ai pas le courage. C'est trop dur. J'y arriverai pas. Tu ne te rends pas compte. Vous ne la connaissez pas. J'ai tout essayé. On ne pourra pas. J'ai mis cette énergie là, cette énergie, c'est énorme, ouais. On dit à chaque jour, il dit le Harizal, il y a une étincelle qui se dévoile. Les Sfarim, ils disent, c'est à chaque heure. Il y en a qui disent, à chaque respiration, il y a un Helek de la Neshama qui sort, une part de la Neshama. Cette part de Neshama, tu peux faire de la vie avec ou tu peux faire de la mort? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la mort. Tu souffles dans le vide, comme ça. Tu vides ton... Il y a des gens, ils sont comme les ballons. Vous savez, les ballons, vous les gonflez. Et quand il est gonflé, tu lâches, et le ballon, il fait... Il tombe par terre, il fait... Il y en a, ça fait 8-9 ans qu'ils ont... C'est-à-dire, c'est fini, c'est ça. C'est pas la peine. Tu veux divorcer? Non, je veux pas divorcer. Moi, tu veux rester? Non, je veux pas rester. C'est compliqué. Bon, les enfants, tu t'en occupes, mais c'est pas mon problème. Bon, t'es responsable, mais c'est normal, je suis le père, je suis la mère. Bon, alors tu vas t'en occuper? Non, je... C'est très bizarre, c'est des ballons. Tu payes les dettes, mais c'est toi qui as signé. Ouais, j'ai signé, tu signes une signature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire? Ça veut dire que c'est toi. Comme ça. Dahalomot. C'est quelqu'un, il ne se sent pas engagé par sa propre réalité. Il ne respire pas son air à lui. Tu respires ton air, c'est ta famille, tu respires. C'est ta religion, t'es juif, t'es juif. Il y a des gens comme ça qui disent, je suis juif, enfin bon, c'est rien, je suis quand même monsieur. Enfin, quand même, c'est juif. Dis non, c'est un nom d'emprunt qu'on a pris pendant la guerre, je suis quand même, vous auriez pu choisir quelque chose de plus discret. Ouais. T'es juif, il faut t'assumer en tant que juif. Ah non, ça me prend la tête, ça me saoule, ça. Encore en venant, j'étais au téléphone, un jeune homme, il est avec une fille. Maintenant, la fille est plus religieuse que lui. Lui, il est moins religieux. Il me dit, vous comprenez, monsieur le rabbin, moi, ça me pose des problèmes parce que mes parents, ils n'ont pas trempé la vaisselle. Et puis, mes oncles, ils sont mariés avec des goyotes. Et nous, pour les fêtes, on a besoin de sortir qu'on sort d'Égypte. Donc, du coup, on amène des goyim au CDR. D'accord? Mais, j'ai dit, mais, c'est quoi ton problème? Oui, mais elle est intolérante. Elle veut pas. Je dis, mais, elle est dans une planète. Toi, t'es dans une autre planète. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux quoi? Tu veux que elle se rabaisse? Tu veux que toi, tu veux monter? Qu'est-ce que vous voulez? En fait, quand les gens, ils souffrent de quoi? D'un problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Je dis, laisse tomber. Tu veux rester un agent des PTT? Les PTT, pauvres types traditionnalistes. D'accord? C'est pas grave. Pauvres types traditionnalistes. PTT. Pauvres types traditionnalistes. C'est pas que c'est grave d'être traditionnaliste. Mais pas, je parle du mauvais traditionnaliste. C'est quelqu'un qui veut continuer à faire des avérotes par tradition. Nous avions l'habitude de manger les oursins, le Shabbat, avec le rabbin à Alger. Moi, ils me l'ont dit à moi. Ils m'ont dit, mais monsieur le rabbin, les oursins, je les mangeais avec le rabbin. Vous allez me dire que c'est interdit. C'est compliqué. J'ai dit, mais le rabbin, il sortait avec votre femme. Il m'a dit, bon, mais c'est vrai, c'était un cas compliqué. Comprenez, non? Les gens, ils vivent avec des incohérences. Après, ils deviennent cohérents avec leurs incohérences. Après, ils s'en sortent plus. Pourquoi? Mais c'est l'air que tu respires. Tu respires de la cohérence, tu respires de la cohérence, tu respires de l'incohérence, tu respires de l'équilibre, tu respires du fou, tu respires de la ralla, tu respires l'adultère, chacun ce qu'il respire. Ce que tu respires, c'est ton air. Ton air, c'est quoi? C'est ta réalité. Maintenant, il y en a, ils acceptent leur réalité. Ils inspirent, ça les inspire. Il y en a, ils rejettent leur réalité. Ils expirent et ils en expirent. Mais ils continuent à garder le même air, mais ils ne veulent pas le respirer. Comme ça, il te dit, tu sais, l'autre, il est avec sa femme, il dit, écoute, tu sais quoi? Tu me bouffes l'air, voilà, tu m'étouffes. Je te vois, j'ai envie de mourir. Viens, on divorce. Non. Je dis, puis c'est lui-même dans la chambre à gaz. Il a fermé la porte, il a envoyé le gaz. Voilà. Ils appellent ça le mariage. Et ouais, bah, tu es malade. Assure. Parce que c'est déjà t'es là. Assure. Non, non. Je vais crever, je vais rester. Il dit, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Nistera Darki. C'est quoi derrière? C'est quoi un derrière? Un derrière, c'est un chemin. Maintenant, vous savez, la rue, elle existe. Le bâtiment, il existe. La route, elle existe. Mais le chemin dedans, il n'existe pas. C'est toi qui as tracé. Comme le GPS, il peut passer par là, il peut passer par là. Il y a plein de drachim, bahaim. Il y a beaucoup de chemins dans la vie. C'est toi qui vas faire ton chemin. En fait, c'est quoi le chemin? C'est la trajectoire. La trajectoire est personnelle. C'est toi maintenant, quand on dit, les chamim s'appellent Assam Derachav, celui qui est Sam Derachav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa tête, il a déjà un projet. Celui-là, il est en école d'ingénieur, il voit à peu près le calcul qu'il va faire. Celui-là, il rentre à l'Eshiva, il fait 10 ans de kollel, après il fait une smicha, il fait ça. Il a déjà un projet. Ça s'appelle le derer. Maintenant, la Torah, elle s'appelle derer. Il dit le Maharal de prendre Torah, c'est derer. La Torah, c'est un derer. C'est quoi un derer? C'est une trajectoire. Maintenant, au Hachem, il y a un milliard de trajectoires à l'intérieur de la Torah. Rien qu'en Hassidout, il y a 250 écoles de Hassidout. 250 écoles que de Hassidout. D'accord? C'est-à-dire, chez les Litaïm, t'as encore 2000. Et là-bas, les Sfaradim, encore 500 000. Et l'autre, 400 000. C'est pas grave! Parce que chacun, il va choisir son chemin. Et c'est très bien! Du moment où tu respectes le Shulchan Aruch et les 613 Mitzvot, mère Patlecha, tu as un derrière. C'est ton derrière à toi. Pourquoi je vais dire, il est mieux, celui-là, il est moins bien, celui-là, il est vrai, celui-là, il est faux. Pourquoi le bon Dieu, il nous aime tous, non? Vous avez un doute? Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que c'est un chemin. Maintenant, chacun, il va tracer son chemin. Maintenant, le chemin, on a dit que c'est une trajectoire virtuelle. Après, qu'est-ce que je fais? Je m'inscris dans cette trajectoire. Ça s'appelle mes projets, ça s'appelle mes vœux, ça s'appelle mes souhaits, ça s'appelle ma volonté, dans lequel je m'inscris. Maintenant, quand je dis Nistera Darki, ça veut dire Chas V'Shalom, ma trajectoire, elle est cachée d'Hachem. Genre, Hachem, ça l'intéresse plus. Tu m'intéresses plus. Oui? Comment on appelle la punition que Hachem, il dit, ça m'intéresse plus ta trajectoire? C'est carrette, c'est ça carrette. Ça, Hayav Karet, les gens croient Karet, c'est quoi Karet? Karet, c'est quand t'as un niveau où même Dieu te dit ah, Karet tes bêtises, Karet! C'est trop, ouais? Mais en réalité, Karet, ça veut dire couper. Comment on appelle un guet? C'est faire Kritout. On coupe, ouais? C'est un livre qui va couper le lien entre la femme et l'homme, c'est Keret, c'est faire Kritout, d'accord? Quand quelqu'un est Hayav Karet, c'est quoi? C'est que le fil transparent en qui le relie à Djibourou, il est coupé. Il existe, il continue à exister, mais wow, la particule en perte dans l'univers. Le fruit des courants, des humeurs, du satan, de la lourdeur, de la bêtise, de n'importe quoi, de la voisine, il ne sait pas, il est perdu. Parce qu'il a coupé le lien. Comment ce lien existe? Une personne, elle est comme ça, vous la voyez? Il y a sa neshama qui l'a rempli. Du haut de son corps, la neshama, elle part comme un fil transparent, comme ça il explique le Nefesh HaHaim. Sûrement le Tania, c'est pareil. Ouais, le fil, il part, il traverse les 10 sphirotes, les 7 cieux, après les 10 sphirotes, et il arrive au Shoresh HaNeshamot d'Israël, à la racine d'Israël, qui est juste en dessous du Kisei HaKavod, du trône céleste. Donc en vérité, la Neshama, elle est en lien perpétuel entre le bas et le haut. Ça va? Amekadesh et Tatsumo Milemata, Amekachimoto Milemahala. Parce que tu es toujours lié en haut et en bas. Maintenant, le micro-modèle du haut et de bas, il existe aussi chez l'homme, le haut et le bas. Parce qu'on dit Amekazesh Tatsmo Milemata, Mekachimoto Milemahala. Celui qui veut avoir des mahalot dans la Torah, il doit faire attention à ce qui se passe à l'équateur. L'équateur, c'est l'endroit le plus chaud du monde. Le milieu du corps. Ouais, tu fais attention. Pour ça, comme une ceinture, on dit ça. Il y a le monde d'en bas, le monde d'en haut. Il y a des gens qui font des transferts d'hémisphères. Les hémisphères d'en haut, ils se retrouvent en bas. Les hémisphères du bas, ils se retrouvent en haut. Il réfléchit maintenant avec le bas, pas avec le haut. Amekadesh etasmo milemata, mekachimoto milemahala. Comprenez cette logique. Maintenant, tous les mondes, c'est quoi? C'est des modèles. C'est de la modélisation, en fait. Donc maintenant, quelqu'un y réfléchit, il est lié par ce fil. Bah, Hachem, quand on est réveillé, par exemple, la majorité de l'aneshama, elle est là. Quand on est endormi, la majorité de l'aneshama, elle est en haut. La prière, par où elle passe? Par le fil de l'aneshama. L'intuition, par où elle passe? Par l'aneshama. Oui, l'agma, elle dit, quand il voyait que sa prière, elle était sgoura, méfive, il savait qu'elle était acceptée. C'est-à-dire que lui, il est en train de parler en bas, il prie pour le malade, mais Hachem, en même temps, il écoute sa prière en haut. Donc il est les ma'ala devant le Kissé Akavod en train de dire à Hachem, je t'en prie, sauve cette personne, et Hachem, il y a les rêves. Son dossier est déjà classé, il a fait trop d'avérot, dégage. Comment le tzadik, il savait qu'en bas, il était condamné, parce qu'en haut, on ne laissait pas parler. C'est comme si toi, le type dit, fais-moi sauter le PV, tu dis, y a pas de problème, je connais bien le préfet, tu vas, le type dit, quel nom? Hop, laisse tomber. Et celui-là. Je dis, attends, mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait, celui-là, il est rayé de la carte. Oh là là, je veux même prendre, c'est un dossier mort. Ça s'appelle Nisera d'Arkissi déjà, Hachem, il veut pas en entendre parler, et comment tu crois que les gens, ils veulent en entendre parler? Ça, c'est difficile. Maintenant, ça, c'est chacun avec chacun. Chacun exactement, il sait où il en est. Parce que les gens, ils croient, écoutez, je n'étudie pas beaucoup la Torah, je n'ai pas la chance d'être tombé dedans quand j'étais petit, ce syndrome d'Obélix, très connu, d'accord? Ou alors, je suis pas rabbin, je n'ai pas l'intuition. Non. Il y a des niveaux d'intuition, il y a des niveaux de perception, il y a des niveaux de névoie qui existent chez des gens, de prophétie. Mais chacun, à chaque instant de sa vie, il peut savoir exactement où est-ce qu'il en est avec Hachem, à la seconde. Ça va? C'est que le GPS, il existe depuis toujours. Chacun, il sait où il en est. Comme toi, tu sais où tu en es avec ta femme. Tu sais très bien. Quand elle te regarde, tu sais où tu en es. Quand tu veux l'approcher pour faire un bisou, elle fait, allez, dégage. Tu sais où tu en es. Tu sais, ton fils, tu veux lui parler, il joue avec sa PlayStation, tu sais où tu en es. Tu dis pas non, mais c'est rien, il fait semblant. Il m'adore, il m'écoute beaucoup, il se remet en cause, mais rien, il fait genre, il joue. Non, chacun, à chaque seconde, il sait où il en est avec l'autre. Ouais, à la had kama bekama, il sait où il en est avec Hachem. Ah, les gens, ils disent, mais je ne savais pas. On est puni par la conscience et on est récompensé par la conscience. Donc, on ne peut ni récompenser ni punir quelqu'un qui n'est pas conscient. Donc, on est conscient. Maintenant, on peut refuser la conscience. C'est comme une lettre. Tu peux ne pas l'ouvrir. Mais elle est arrivée. Tu peux ne pas voir les signes de ta femme, mais ils sont arrivés. Tu peux voir les signes de ton fils, mais ils sont arrivés. Après, la preuve, rétroactivement, tu dis, ah, je comprends maintenant pourquoi il lui fallait beaucoup d'argent de poche, qu'il restait des heures et des heures enfermé dans les toilettes et qu'il sortait avec des yeux vitreux. J'ai compris maintenant. C'était pas la Kabbalah, c'était le shit. Maintenant, la question, c'est pourquoi on comprend rétroactivement? Pourquoi on comprend pas les khatris là? Comme des gens à Rosh Hashanah, ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils ont fait l'année dernière pendant les fêtes, ouais. Celui-là maintenant qu'il est divorce, il réfléchit comment il était. Il est venu chez moi, il m'a dit, ah, monsieur, dans 15 jours, le gars, dites-moi ce qu'on peut faire. Je dis, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, dites-moi ce qu'on peut faire. Il faut me trouver une solution. Je dis, à quel étage tu es maintenant? Je vais trouver une solution. Trouve-moi un tabouret, une corde, je vais trouver une solution. Il m'avait dit, Mera, vous êtes la dernière chance dans 15 jours, le gars. Je dis, comment veux-tu qu'en 15 jours, on répare ce qu'en 15 ans, t'as détruit? Ils sont bizarres, les gens. Je sais pas compris. Moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Ils veulent des miracles. Ouais, trouve-moi. Il m'a dit, écoutez, s'il paraît que si je fais tel ségoula. Je dis, oui, mange des talits de katane, fais des infusions de mesouzot. Qu'est-ce que tu es nerveux. Tu es coléreux. Tu es radin. Tu es une hamara. Ça va pas se régler parce que tu vas manger une mesouza. Et une fois, ils sont venus à deux. Ouais, ils viennent souvent à deux. Donc il y avait une dame et un monsieur. Alors la dame, elle vient, elle était bizarre. Elle est comme ça. C'est une cocotte minute. Et l'autre, zombie. Je dis, celui-là, il a fini la moquette, il a attaqué le carrelage, c'est pas possible. Comme ça. À peine elle s'assoit, à peine elle pose le derrière sur la chaise, elle commence. Mon mari, une mitraillette. Je dis, écoutez madame, j'ai réussi à la faire. Stop! Elle s'est calmée, elle m'a regardé comme ça. C'est la première fois de sa vie que quelqu'un lui ferme la bouche. Alors j'ai dit, écoutez madame, moi vous êtes venue parce que vous voulez avoir un rendez-vous de couple, pourquoi pas? dans la mesure du possible. Mais j'ai eu un problème. Elle me dit quoi? Elle me dit, je vous connais depuis 3 secondes, je suis déjà énervé. Alors le zombie que vous avez amené avec vous, depuis combien de temps il subit cette irradiation? Elle m'a dit, vous avez pris parti. Alors je lui parle, j'écoute, je la laisse vomir, c'est un peu aussi notre rôle de cuvette de WC, c'est normal. Et quand elle a fini de déblatérer, je lui dis, écoutez madame, vous reconnaissez que vous avez au moins un problème de nervosité, pour pas dire d'hystérie. Elle a quand même réussi. Alors, au bout d'un moment, elle m'a dit, bon, c'est possible. Elle m'a dit, bon, d'accord. Elle m'a dit, alors donnez-moi une ségoula. Je dis, j'ai pas de ségoula. Elle me dit, une ségoula. Je dis, quoi une ségoula? Je dis, vous devez un travail. Vous avez un problème de colère, je vous donne le cours sur la colère, le cours sur le respect de l'autre, le cours sur l'autre, voir l'autre positivement, avec une méthode de travail, une application, ça va vous faire 4 mois, ça remplace une thérapie. Vous êtes prête? Elle m'a dit, non, c'est trop compliqué. Moi, prendre des notes et réfléchir et me remettre en cause et fixer des cabalotes, c'est-à-dire des exercices pour évoluer. Et ouais, donnez-moi un truc magique, un truc facile. Les rabbins, ils connaissent des trucs comme ça. Elle m'a dit, écrivez-moi quelque chose. Je t'écoutais, madame. Je ne connais pas ça, nous on ne fait pas ça. Elle me dit, elle a insisté, j'ai une ségoula pour vous. Parce que c'est une grande nerveuse. Dès que son mari rentre, apocalypse, non. Je dis, voilà. À quelle heure il rentre votre mari? Elle m'a dit 8h. Je lui dis, à 8h moins quart, vous buvez 1 litre d'huile d'olive pure. On a calculé, ça prend à peu près 7 minutes et demie. Quand vous avez avalé 1 litre, comment vous savez que vous avez avalé 1 litre? Parce que vous êtes dans l'état d'une femme qui a les nausées d'une grossesse de 18 mois. Voyez un peu. Il vous reste 7 minutes et demie pour avaler une mèche en coton de 60 cm de long. Mais doucement. Et au moment où votre mari ouvre la porte à 8h, pile, vous l'allumez et vous la mettez en veilleuse. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, c'est bon. Alors elle me dit, mais... Tous les soirs, comme ça? Tous les soirs. Je lui dis, je paye l'huile. Je veux voir ça. D'accord. Elle m'a dit, moi je préfère écouter les CD. Les gens, ils deviennent intelligents avec l'expérience. Ouais. Un autre aussi, comme ça, il n'arrivait pas à se retenir de dire des mots méchants à sa femme. Des gros mots, des mots méchants. Il la casse. Il m'a dit pareil, il m'a dit je veux une ségoula. Je dis, j'ai pas, il m'a dit une ségoula, j'en ai rien à faire. Moi j'étais voir Kraftwerk. Il me dit, mais ils sont tous âgés. Oui, c'est des ravagés. Bon, alors je dis, mais quel rapport? Je dis non. Il m'a dit, je veux. Ah, j'ai trouvé l'eau. J'ai dit, tu prends un pot, propre, hein, bien sûr. Tu mets dedans du goudron. Tu rajoutes des excréments de chameau lyophilisés. De l'huile de chien, d'accord? Je sais pas moi, des trucs pourris que tu connais, de l'urine de chauve-souris, ou là, tu mélanges bien. Et c'est un goût très bizarre, c'est très amer. Et au moment où tu veux dire un gros mot à ta femme, que tu te demandes est-ce qu'elle va bien le prendre ou non, tu dis mais qu'est-ce qu'elle ressent ma femme au moment où je lui dis un vrai gros mot qui la vexe? Alors juste avant de le dire, tu ouvres le bol à cale, tu mets le doigt dedans, et tu le mets dans ta bouche, et tu dis, c'est ce goût-là? C'est ce goût-là! Ouais. C'est ça la logique. Donc c'est quoi Rabotai? Il n'y a pas la ségoula. Je sais que Mikvé, c'est la même gématria que Karas. Quelqu'un il veut calmer son Karas, il va au Mikvé. Ça existe ces notions-là. Mais quand il y a un vrai travail des midotes à faire, il faut le faire. Il y en a même dans le Mikvé, c'est rien. Comment le Mikvé il va faire? Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand il y a un travail à fournir, il faut le faire, il faut le créer. Maintenant, ce travail, c'est le lien que tu crées avec ta réalité. Maintenant, quand tu coupes le lien, c'est ça qu'on a dit, Chayav Karet, Hasvechem, il a coupé le lien. Mais tu es Karet d'Hachem, mais tu peux être Karet avec ta femme aussi. Tu peux être Karet avec ton fils. Tu peux être Karet avec ta religion. Tu ne ressens plus rien. Et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi ce n'est pas pareil. On n'a pas le même feeling. Les choses ne passent plus. Le lien est coupé. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Mais papa, tu n'as pas compris. Le lien, il faut le créer. Si tu ne le crées pas, il n'y en a pas. Pareil avec ton fils, c'est pareil. Avec Hachem, c'est pareil. Une fois, un copain à moi, il avait été voir à l'époque le Stapler, c'est pour une bracha. Ouais, pour une bracha. Maintenant, il a pris une liste de 50 sadiques. Le père de Rav Chaim Kanievski de maintenant. Ça vous dit quelque chose? Un grand religieux, très religieux. Ouais. Il a amené une liste. Écoutez bien maintenant, l'histoire, elle est effroyable. Chaim ben Yaakov, Eliyahu ben David, Moshe ben Miriam, que des noms et des prénoms. Il n'y a pas de nom de famille. Maintenant, le step là, il recevait des gens toute la journée, comme le rabbi, vous savez comment ça se passe, les tzadikim, oui. Et lui, maintenant, il va, il est un peu nia, un bachur yeshiva français, comme ça, il parle à moitié l'hébreu. Et le stepeler, quand il faisait une bracha, on criait tellement, on croyait qu'il te faisait une malédiction. Tu faisais un kalvahamor. Si, ça, c'est déjà la bracha. D'accord. Donc lui, il est nia, il a fait la queue, il a amené sa liste. Il a donné le rab, il a vu comme ça. Bon. Il faisait avec le doigt, comme ça. Tac, 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 tac. Bon. Il a vu que le rab, il sautait des noms. Il a dit, il est vieux, il est fatigué. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu un mois après, il devait repartir en France. Il a dit, je vais repasser chez le stepeler, je vais repasser. Il pose la liste comme ça devant le rav. Maintenant, le rav, il reçoit 80 personnes par jour. Il voit la liste, il fait, voir pas, bah, t'as pas, t'es déjà venu. Maintenant, il n'y a rien. Je vous dis, toute la journée, il reçoit des gens. Il n'y a rien marqué. Il dit, Ben Haïm, David, il a déjà vu la liste. Il sait qu'il a déjà prié pour ces gens-là. Ouais. Alors, le rav, lui, il fait oui, mais le rav, il a dit, allez, il a foutu dehors. Je ne sais pas, il est énervé. Il a été un petit peu troublé. Alors, il sort dehors. Il y a un rav qui était là-bas. Il lui dit, pourquoi tu es comme ça? Il a dit, écoute, je sais pas, j'ai demandé au stepeler une bracha pour les gens. Et j'ai demandé, il a sauté des noms. Je l'ai redonné, il a sauté des noms, il m'a dit, tu es déjà venu. Alors, je sais pas quoi faire. Alors le rav, il lui a dit, mais dis-moi, les gens qu'il a sauté les noms, ils sont chômeurs Shabbat ou non? Il a dit non. Il a dit, ben. Je sais pas si vous avez compris. Le rav, il est en Israël. L'autre, il est à Joinville les Castagnettes. Il n'est pas chômeur Shabbat. Il n'y a rien marqué. Il y a marqué Eliyahu ben Haïm. Le rav, il a sauté le nom. Pourquoi? Tu ne mets Chavé Shalom. Au contraire, il doit prier pour lui, puisqu'il n'est pas chômeur Shabbat, pour qu'il devienne chômeur Shabbat. Bah oui, mais alors va à Pantin et prie pour qu'il se relève, les mecs. Pantin, vous connaissez Pantin? Pantin. Église de Pantin, c'est connu. C'est un endroit où les choses, elles sont figées. Ce qu'on appelle un cimetière. Ouais. C'est très, très dur. C'est très dur. Ouais. Vous allez dire, mais enfin, c'est quand même dur de penser comme ça. Non, c'est pas une question de penser. C'est comme toi-même, des gens, toi-même, tu dis, si c'est la meilleure solution pour nous, c'est le divorce. Donc, qu'est-ce que tu penses que c'est mort? Et cet enfant-là va lui parler, tu dis, non, c'est foutu. Pourquoi quelqu'un, il peut arriver à un niveau, à une situation où il est hors circuit? Personne ne l'a mis, il s'est mis tout seul. Comme l'on dit bien. Il m'envoie un email. Moi, je reçois des trucs, je vous dis, j'ai pas la télé, mais. Monsieur le rabbin, voilà, je suis un petit peu religieux, je suis marié depuis 5 ans, j'ai eu 3 enfants, et j'ai une collègue de travail, une secrétaire, elle a 17 ans, elle est en stage, j'ai dormi avec elle, elle est enceinte, elle a un copain goy, comment je dois faire? Est-ce que je dois parler à ma femme? Est-ce que je dois parler à la fille? Alors je réponds, je marque JHD, ça veut dire une jeune hamar au carré. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais sur cette photo? Qu'est-ce que tu fais dans cette galère? Je ne sais pas si vous comprenez, ouais. Il faut accepter une chose. Mais c'est violent, hein. Vous êtes déjà regardé dans une glace? Vous êtes déjà regardé dans une glace? Il y a un phénomène bizarre. C'est que le reflet de la glace, c'est le reflet de, de la personne qui est devant la glace. Vous savez ça? Non, des fois ça fait peur. Tu vois une guenon, tu dis « Ah !» C'est là que tu te rappelles que c'est toi. D'accord, mais par moment ça fait peur. C'est le reflet, c'est le reflet. Et bien la vie, c'est le reflet. Tu regardes ta vie, tu te regardes. Ça te plaît pas, comme tu veux. Tu dis, mais je voudrais bien que l'image, elle change dans le reflet. Change. Tu dis, je veux pas changer. Ben si, elle va rester la même. C'est ton couple, c'est un reflet. Tes enfants, c'est un reflet. Ta réalité, c'est un reflet. Ta parnassa, c'est un reflet. Tu veux pas. Tu dis, non, je suis pas d'accord, Eh ben reste. Qu'est-ce que ça change, tu veux? Si tu dis, bah, t'aimes pas ton nez. Eh ben refais-toi le nez. Elle dit, non. C'est le miroir qui est déformant. Il y a des gens comme ça. Ils ont une tasse de café ici. Ouais, tu bois un café, t'as une petite tasse de café. Tu passes devant un miroir, tu vois, tu regardes, tu vois qu'il y a une tache de café sur le nez. Qu'est-ce que tu fais? Tu frottes le miroir. Le bon Dieu, il s'est trompé. Ma femme, elle comprend rien. Mes enfants, ils connaissent pas ma valeur. La banque, elle m'a pas suivi. La société, elle sait pas qui je suis. Tellement le miroir, il est à côté de la plaque. Et toi, Blainara, t'es une bombe atomique. Rabotaï, le miroir, il se trompe pas. Il ne se trompe pas. Pourquoi? Parce que c'est une proposition. C'est une proposition, la vie. C'est une proposition. Ton mari te propose le bonheur. Toi, tu ne veux pas. Tu t'inscris dans une chassidoute très connue qui s'appelle chassidoute de M'Shenneuf. Tu es chassid de M'Shenneuf. Du M'Shenneuf et Rebeu, très connu. Tu fais la tronche du matin au soir. Des gens comme ça, ils ne savent même pas pourquoi. Ça fait tellement longtemps qu'ils font la gueule, ils ne se rappellent même plus pourquoi ils font la gueule. sais pas si vous comprenez. Comme ça. Tiens, tiens, je veux pas. Non, ça m'intéresse pas. Ça sert à rien. De toute façon, tu la connais pas. Ils sont tous pareils. Je dis, mais c'est ta vie que tu es en train de vivre maintenant, là. Il y a des gens, ils arrivaient à sourire à Auschwitz. Et toi, tu n'arrives pas à sourire à Joinville-le-Pont. Comprenez cette logique? C'est-à-dire, tu rentres dans une dynamique. Tu renvoies une réponse. Et cette réponse, c'est quoi? C'est une réalité. La vie, c'est une proposition. Ta femme te fait une proposition. Ton mari te fait une proposition. Ton fils te fait une proposition. Et il fait 50 cm, tu fais 50 cm. C'est comme tu veux. Maintenant, tu refuses la proposition. Mais c'est une proposition. Maintenant, un jour, il n'y a plus la proposition. Voilà, l'enfant, il est parti. Voilà. Maintenant, il s'est marié. Tu lui parles une fois par mois. Tu dis, mais j'aurais voulu lui dire. Eh bien, il est parti. Et là, tu as de la chance. Il est parti en Israël. L'autre, il est parti au cimetière. L'autre, il est parti à l'hôpital. L'autre, il est parti dans le shit. L'autre, il est parti dans la cocaïne. Tout le monde va partir un jour. La question, c'est de savoir, avant qu'il parte, qu'est-ce que tu as fait avec lui? Ça va? Maintenant, c'est pas pour vous traumatiser, hein, parce qu'on a tous les mêmes problèmes, vous en faites pas. Ouais. C'est même tu dis, ben, un jour tu vas dire, eh ben, peut-être que moi, un jour je vais me poser la question, moi, avant que je parte, combien je me suis parlé? Parce que si vous réfléchissez, toutes les propositions qu'Hachem nous fait, c'est que des occasions de se poser la question à soi-même. Qu'est-ce qu'on a à Torah dit? Michel Shloï Sourin, il pêche pêche bémarasav. Celui qui a des problèmes, il pêche pêche bémarasav. C'est quoi il pêche pêche bémarasav? Comment on traduit? Il pêche pêche, piche pouche. Il doit fouiller, il doit chercher. Il doit chercher les poux. Piche pouche, c'est les poux. Il doit chercher les poux. Bémarasav. Pas bémarasav, bémarasav. Nous, quand on a un problème, on cherche chez l'autre. En dernier ressort. Après avoir le tour du monde. On dit, quelle est ma part à moi? C'est pas possible. Moi, le gadol, moi, le tzaddik, moi, la tzaddikette, comment c'est possible qu'il y ait, haz v'shalom, l'ombre d'un risque d'une remise en cause? Un hilul atzmi. Mais si tu commences par ça, si tu es assez élastique, faut comprendre, tu dis, écoute, je vais prendre la part qui me concerne. Il y a au moins 50% qui me concerne. Mais tu vas gagner du temps. Comprenez ou non? Les gens, ils font un problème. C'est elle, c'est à cause d'elle, c'est à cause de son éducation, sa mère, son truc, c'est une psychose, c'est une névrose, c'est une maladie génétique, c'est des problèmes. Après, c'est ça, après, c'est la société, c'est le rabbin qui n'a pas compris, c'est l'endroit où il a grandi, c'est les gens, c'est la keïla, c'est le rav, c'est l'ambiance, c'est la conjoncture, c'est la difficulté, c'est le gilgou, c'est la seconde, jusqu'à ce qu'il va revenir. Peut-être que lui-même, il a quelque chose. Mais vous croyez en Dieu, non? Vous croyez en Dieu? C'est quoi croire en Dieu? Croire en Dieu? C'est pas seulement de manger kasher, mettre les tefillin, faire shabbat. Ça, c'est évident, ça, c'est pour les juifs. Les autres, je sais pas. Mais les juifs, c'est normal. Comment un juif, il peut ne pas être shomer shabbat? Il dit, écoutez, c'est pas simple. Il y en a un, il m'a dit, écoutez, je suis prêt à être shomer shabbat, mais le problème, ça tombe le samedi. C'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Elle est belle, celle-là, ouais. L'autre, il m'a dit, je ne mets pas les tefillin, j'ai peur d'attraper la maladie de la vache folle, puisque c'est du cuir de vache. Je lui mets la vache folle, vous pouvez pas l'attraper. Ça se veut, vous l'avez attrapé déjà. Très bien, la mairie de Paris. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Ouais. C'est qu'une personne, elle s'invente des histoires pour ne pas avoir assumé une réalité qu'on lui propose. Ouais. Mais ça rime à rien. Rappelez-vous que les choix que l'on fuit le plus, ce sont ceux qui nous rattrapent les premiers. Ça va? Donc, ça sert à rien. C'est rien que des. C'est remettre à plus tard. Et si vous me direz, c'est pas grave, je remets à plus tard. Alors, sachez que la vie, c'est comme les impôts. Tu peux reporter, mais il y a des indemnités. Ça peut être un divorce ou la dépression. Là. C'est des indemnités de retard. Il faut faire. La vie, elle te propose. Assure, assume. Mais alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux sortir de la réalité. C'est ce qui s'est passé avec Yaakov. La manistera d'Arkimé Hachem. Comment Hachem? Moi, je m'occupe de son fils. Je suis en train de faire de son fils un roi. Et lui, maintenant, il est en train de s'angoisser et de dire, ça y est, il est mort et tout l'avenir de la famille. Parce que lui, pour lui, le fils de... C'est qui? Le fils de Rachel. C'est lui. Lui et Benjamin, c'est lui l'avenir. Les autres, c'est Agave. Ouais. Il est mort. Alors qu'il est mort. Alors toi, tu rentres dans un trip. Maintenant, il est mort. Regardez ce qui est marqué ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Yaakov, il a jugé le présent. Il n'a pas été capable de juger l'avenir. D'un autre côté, tu dis, mais quand le présent, il est foutu, comment tu peux juger l'avenir? L'autre, il voit le magasin. Ouais, il voit le magasin. Il voit 230 000 euros de passif, 1 euro d'actif. C'est lui, il est heureux, c'est lui, c'est 1 euro actif. D'accord, d'accord. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe financière. Hein, il est venu chez moi, il m'a dit, écoutez, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'ai 230 000 euros de passif, qu'est-ce que je dois faire avec cette société? Je la ferme, je la coupe, je fais quoi avec le magasin? Je dis, écoute, moi, je connais rien en business. Mais je connais un petit peu en approche psychologique de la réalité. Je dis, mets-toi dans la tête du mec qui va te racheter. Le mec qui va te racheter, il vient. Il dit, attends, il y a des. Il dit, les murs sont à vous? Ils sont à moi. Les machines, outils, elles sont à vous? Elles sont à vous. Il y a combien? Il y a 1 million d'euros, mais on ne produit rien. Vous avez une clientèle? On a une clientèle, mais en ce moment, c'est très bas. Le dernier produit n'a pas marché. D'accord. Et pour la dette? Eh bien, la dette, c'est 230 000 euros. D'accord. Mais elle est pour qui? Elle est pour moi. Ah, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez déposer? Eh bien, elle va disparaître. Et le repreneur, qu'est-ce qu'il prend? Zéro. Je dis, ben, si tu le repreneur, lui, c'est zéro. Alors, t'as qu'à te mettre dans la tête du repreneur. Il me dit, mais je suis pas le repreneur. Toute la vie, c'est comme ça. Moi, il me dit, cette femme, c'est fini. C'est fini, elle est morte, c'est fini. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. C'est une race, c'est une pourriture, c'est une débile, c'est une Tunisienne. C'est pour réveiller un quart de la salle, d'accord. J'exagère. Je ne veux pas parler des Marocaines, c'est un roulam. Les Ashkenazim, c'est un continent. Donc, je rigole. La réalité est bien pire. D'accord, donc c'est quoi l'idée? Je dis, t'es foutu, c'est foutu. Je lui dis, viens avec moi. Maintenant, il est là devant moi. Ouais, il me parle de sa femme maintenant, ou de son mari. Je lui dis, viens avec moi. On fait 2 mètres, comme ça. Je lui regarde là. Voilà, je t'explique maintenant ce qui s'est passé. Ah, il dit, ah oui, c'est sous un autre angle. Ouais. C'est bizarre, on n'a rien fait. C'est la même situation, on a changé d'angle. L'hôtel vient, me dit, ma belle-mère, elle me détruit, elle m'insulte, elle me maudit, elle me répond pas, elle me parle pas, elle me casse, elle fait du lachonara à mon mari, il me bourre la tête. J'ai écouté votre belle-mère, elle ne veut pas ou elle ne peut pas. Elle me dit, j'ai pas compris. Je dis, peut-être qu'elle a une dépression latente, peut-être qu'elle a un vieux problème qu'elle n'a pas réglé, peut-être qu'elle a un malaise. Imaginez-vous qu'après son divorce avec son mari, c'était qui le soutien de famille? C'était votre fille, votre mari. Donc à l'époque, le plus grand, il est devenu mari. Maintenant, quand vous lui avez enlevé son fils, vous lui avez enlevé son soutien de famille et son mari. Donc elle s'est mise dans un état de dépression. Donc maintenant, c'est l'expression de sa dépression. Donc elle n'est pas méchante. Elle est fragile, pour ne pas dire malade. Alors je vous en voulais une malade, vous, maintenant. Non seulement qu'elle a changé d'avis, mais après elle m'a dit, peut-être je vais prier pour elle. Il y a 2 minutes, elle espérait sa mort. Elle allumait des veilleuses tous les jours en disant, je fête l'année de sa mort. Elle n'est pas morte, mais déjà elle fête l'année de sa mort, je sais pas si... L'anniversaire de l'année prochaine, déjà le fait cette année, comme ça, si elle est morte aujourd'hui. Et 2 minutes après, elle te dit, je vais prier pour elle. Nina, la pauvre, vraiment, elle a souffert, c'est difficile. C'était une femme seule, elle s'est battue pour ses enfants. C'est normal qu'elle soit fragile. Je comprends pas, il y a 2 minutes, t'étais dans la haine. 2 minutes après, t'es dans la compassion. Ça s'appelle un changement d'angle. 2 minutes, t'étais au dépôt de bilan. 2 minutes après, tu dis, pourquoi pas, pourquoi je vais pas la racheter cette boîte malgré que c'est la mienne. Comprenez, toute la vie, c'est comme ça. Cet enfant, c'est foutu. Maintenant, tu regardes différemment, c'est pas foutu. Je comprends, mais c'est toute la vie, c'est ça. Alors, si tu sais qu'en changeant d'angle, t'as changé la réalité, la question, elle est, pourquoi tu l'as subi? Comprenez ou non? Donc, je suis pas chômeur Shabbat, t'es pas chômeur Shabbat. Mais je suis pas chômeur Shabbat, d'accord. Maintenant, t'es à l'hôpital. T'es à l'hôpital. Voilà, y a rien. Tu peux pas bouger, tu peux pas te lever, tu peux pas truquer. Alors, l'infirmier dit, mais qu'est-ce que vous faites de la journée? Il dit, ben, je suis chômeur Shabbat tous les jours. Tous les jours. Et les courses, il n'y a pas de courses. Et la voiture, il n'y a pas de voiture. Et ta femme, alouette, il n'y a rien. C'est-à-dire quelqu'un, il veut, il peut. Il dit, je peux pas. L'autre, il dit, c'est pas dans ma culture. La culture, ça s'apprend. Il dit, c'est pas dans mes habitudes. Les habitudes, ça se prend. Quelqu'un, il dit, mais c'est trop difficile avec le magasin. C'est un choix. Toute la vie, c'est des choix. Ouais. Ah, tu dis, mais les choix, ça me stresse. J'ai l'impression qu'un choix, un choix, un choix, on dirait qu'on a mis de l'huile et qu'on a mis dans une boîte. Les anchois, d'accord? Non. Toute la vie, c'est des décisions. Toute la vie, c'est des décisions. Maintenant, les goyim, ils disent, choisir, c'est savoir renoncer. Oui, chokhma bagoyim ta'amin. Maintenant, la question, elle est, les gens, ils disent, j'arrive pas à choisir. En fait, c'est pas qu'ils arrivent pas à choisir, ils arrivent pas à renoncer. Parce que choisir, c'est assez tov. Mais renoncer, c'est surmera. Comme quelqu'un qui ne veut pas se marier. Il dit, pourquoi je me marie avec elle? Pourquoi je me marie avec elle? Je peux avoir mieux. À 20 ans, il a dit ça. Maintenant, il a 38 ans. Il a refusé 44 shidouchim. Ouais. Et maintenant, il s'est marié avec un pou qu'un rat n'en veut pas. Tu lui dis jigé. C'est aussi une formule chimique. Ça veut dire jeune, je bève. Ouais. Si je comprends pas, tout ce que tu m'as saoulé, elle est pas assez mignonne, j'aime pas son profil, il lui manque ça, elle a un petit dérèglement au niveau de l'œil droit, et maintenant tu t'es épousé un truc, je te dis, il n'y a aucune forme. E.T., vous connaissez E.T. E.T., ouais, E.T., entièrement tunisien, E.T., d'accord. Je rigole, il y a une sortie de secours ou je... Non, je ne sais pas ce que j'ai ce soir avec les Tunisiens. Ça n'a rien à voir. Bien que ces deux catégories, il y a les uns et les autres, c'est connu, d'accord, mais... Je rigole, c'est pour vous réveiller. Donc c'est quoi l'idée? De quoi je parlais juste avant? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas apprendre à renoncer. Tu vas apprendre à renoncer. Tu renonces. Quand tu épouses celle-là, tu renonces à toutes les autres. C'est difficile? Non, c'est un choix. Ouais. Quand tu fais ingénieur, tu renonces à être médecin. C'est un choix. Quand tu habites ici, tu renonces à habiter ailleurs. Quand tu vas à la montagne, tu renonces à la mer. Il y a des gens, non, ils vont à la montagne, mais ils pensent à la mer. Ah, la chaleur de la mer, le coucher de soleil de la mer, les palmiers. Mais alors, va à la mer. Il va à la mer. Ah, il retraite la montagne. L'air frais du soir. Mais tiens, malade, va te soigner. Il fait tes chouvas, il regrette les boîtes de nuit. Il est en boîte de nuit, il fait faire tes chouvas au DJ. Combien des enfants? Des frous. Ils pètent un câble. Ouais, ils veulent un jean, une copine, de la moquette. Ouais, et... Maintenant, avec toi, la religion, c'est de la... J'en ai rien à... Et avec leurs copains? Les copains fraillent. Allez, mets le talit de katan. Comment tu touches une fille? Mais il faut la respecter. C'est un diamant, c'est une neshama. Je prends pas avec toi. Il te dit la religion, c'est de la... Et avec les autres, il est de ta vie. Ça dit que des frailles pour être rachat des frous. C'est bizarre. En vérité, c'est quoi son problème? Il n'a pas décidé qui il est encore. Il se cherche. Comprenez ou non? Satan. Satan ici, Satan là, Satan de partout. D'accord? Il n'a pas décidé. Un jour, il va décider. Il va être un gadol. Pourtant, il n'a pas décidé. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas décidé, même s'il a un potentiel de gadol, c'est toujours un pauvre type avant qu'il a décidé. C'est comme ça. Le flou, c'est toujours grave. Le net, c'est jamais grave. Quand t'es net là, c'est bien. Quand t'es net là, c'est bien. Quand t'es net là, ni là, ni là, ce qu'on appelle Internet. Qu'est-ce que tu fais à 4h30 du matin à vérifier tes emails? Tu dis, je regarde les emails. Alors tu dis, je vais m'asseoir à côté de toi. Alors il dit, je les vérifierai demain. On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que... Non, mais ne rigolez pas, parce que le Rabbi Falk de Londres, il a dit qu'il faut être noeg, les halachot de Ihoud avec l'Internet. Halachot Ihoud. Tu peux pas t'enfermer avec Internet. Tu peux pas. C'est assourd. Tu peux pas rester seul. Mais je t'en prie, qu'est-ce qu'il y a? Faut pas être des malades, voir le mal partout. Je le vois pas partout, je le vois chez toi. C'est vrai, avant quelqu'un qui voulait aller dans un quartier pourri pour voir des choses pourries avec des gens pourris. C'était du temps, il fallait prendre le métro, descendre à Saint-Denis, après prendre les rues un peu bizarres, rentrer dans des magasins bizarres. Là, tu fais deux clics, tu te retrouves dedans. Donc comment quelqu'un va se préserver? Tu mets ta femme à côté de toi. Contrôle parental. Pourquoi faire? Pour aller te salir la tête, te pourrir la neshama. Après, à chaque fois que tu fais l'armida, tu as des images dégueulasses. Tout ça pourquoi? Les ma'anma. Comprenez ou non? Les ma'anma. Si t'es célibataire, que t'es pas marié, Hachem lui-même il pleure sur les célibataires, elle dit la Gemara. Mais t'es marié, t'as une femme qui t'attend, qui est en train d'aller chercher de la charcuterie, alors que, Hachem, tu as tout ce qu'il faut. Donc c'est débile. Alors ce qui est débile, il n'y a pas de Siyata Ishmaïa dans le débile. Il n'y a pas. Chaque fois que t'es absent, il n'y a pas de Siyata Ishmaïa. Chaque fois que t'es présent, écoute bien, quand t'es présent, même dans l'erreur, Hachem il va t'aider. Quand t'es absent, même dans le vrai, Hachem il va pas t'aider. Alors, comment ça s'appelle que tu es présent? C'est-à-dire que dans le miroir, le reflet, il est net. Dans le miroir de la vie, c'est net. Comprenez ou non? Tu regardes ta vie, c'est net. C'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est ma religion, c'est mon niveau, c'est ma panassa, c'est mes choix, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu vas faire, ça va être bien. Il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est net? Ah, tu dis, mais des fois, c'est net, mais c'est dur. Mais c'est ça, émet. Vous savez, dans émet, il y a met. Dans émet, il y a met. Les gens, ils disent, mais quoi? Alors, ça veut dire qu'il faut mourir pour la vérité. Ben oui, parce que déjà, pour avoir la vérité, il faut tuer le mensonge. Pour avoir du courage, il faut tuer la peur. Comprenez ou non? Pour avoir de l'espoir, il faut tuer le désespoir. Moi, j'ai dit en français, les gens ne me croient pas. Tu ne pourras retrouver l'espoir que quand tu vas te désespérer de ton désespoir. Mais tant que tu crois en ton désespoir, et la preuve c'est que tu l'entretiens, Donc, en mettant de l'espoir dans ton désespoir, tu ne pourras jamais retrouver l'espoir. Il faut donc te désespérer de ton désespoir pour retrouver l'espoir. Non, je dis aucune blague, moi. Vous, vous rigolez, mais moi, je rigole jamais. Ça va? Alors, pour ceux qui prennent des notes, je vais vous dire encore un deuxième hidouche. Écoutez bien. Il est violent, celui-là. Un espoir au singulier, désespoir au pluriel. C'est joli, non? Pourquoi? On ne peut pas vivre sans espoir. D'accord? On ne peut pas. Celui qui n'a pas d'espoir ne peut rien faire dans la vie. Donc, tu es obligé d'avoir un espoir. Maintenant, cet espoir, il doit être réalisé. Par exemple, toi, tu m'empruntes 10 000 euros. Tu dis, je t'emprunte 10 000 euros. Je te jure, sur la tête de ta mère, je te les rends dans une semaine. Donc, toi, tu dis, je te crois. Une semaine après, au moment où je viens demander les 10 000 euros, tu me dis, écoute, je te jure, là, je peux pas, j'ai un gros problème, c'est rien du tout. C'est un petit problème de caisse, un problème de chèque, ou un problème de traloïde, un problème de mensonge. Mais, si Dieu veut, dans un mois, tu les auras. Alors, je t'explique. Le cycle, c'est espoir, réalisation. Tu fais un espoir, tu réalises. Tu promets à l'enfant, tu le fais. Ouais. Tu t'engages toi-même, tu réalises. N'importe quoi. Mais il faut une réalisation. C'est-à-dire, il faut abstrait, concret. Abstrait, concret. C'est celui qui... Espoir, réalisation. Espoir, réalisation. Maintenant, si au moment de la réalisation, tu me proposes un nouvel espoir, à la place de la réalisation, donc le cumul des espoirs non réalisés crée le désespoir. Ça veut dire, ne donne pas d'espoir que tu ne vas pas réaliser. D'accord? Ne dis pas à tes enfants des choses que tu ne vas pas faire. Dis-les et fais-les. Même le plus petit, mais fais-le. L'enfant, il croit, il réalise. Il croit, il réalise. Ben, c'est exactement pareil avec Hachem, puisqu'on est, nous, on est des enfants d'Hachem. On dit, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. C'est pas la télé, il faut tout suivre, d'accord? Donc l'espoir, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est l'espace. Après, je vais vous expliquer, mais rien que pour prenez la définition, ça fait gagner du temps. C'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Maintenant, je vais vous expliquer, c'est facile. Vous prenez des wagons. Il y a le wagon 1, wagon 2, wagon 3. Maintenant, pour que le wagon 2 soit accroché au wagon 1, il faut que je sacrifie une place dans le wagon 1 pour accrocher le wagon 2. Maintenant, pour accrocher le wagon 3, il faut que je sacrifie un espace dans le wagon 2 pour accrocher le wagon 3. Maintenant, j'ai un bon présent, j'ai aujourd'hui. Et demain, j'ai demain. Maintenant, pour que demain existe, il faut que j'y croie aujourd'hui. Si, pour que ton couple il ait un avenir, il faut qu'aujourd'hui tu y crois. Mais maintenant, je suis dans le dégoût maintenant. Maintenant, je suis écœuré. Maintenant, je viens de trouver la preuve de l'adultère. Tu veux que j'y croie maintenant? Maintenant, j'ai vu que l'enfant, ça fait un an qu'il me manque, qu'il soi-disant, il va aller chez moi, en vérité, il va se balader. Maintenant, tu veux que je croie en lui, maintenant? Où je vais trouver la force? Je t'ai dit, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas. Parce que si aujourd'hui, dans le présent, tu n'y crois plus, il n'y a pas de lendemain. Au fond du trou, Mima'amakim Karatira. Au fond du trou. Au fond des camps de la mort, ils ont allumé les Nérodes de Hanouka. Là-bas, jetés en Russie, avec le KGB qui les poursuivait, ils ont dit, non seulement on va s'en aller, on va créer des Mosdot, on va créer des Olamot, on va... Quand on parle des Rabbanim, franchement, quand ils sont arrivés il y a 70 ans, tu sais, les Rav Nissan et tout ça, qui sont venus où, eux? Ils sont venus dans le désert. Un type normal, qu'est-ce qu'il aurait dit? Je suis fou, moi je vais aller en Israël, je vais rentrer au Beit HaMidrash, je vais aller en... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dans l'inespoir total, il a mis une graine d'espoir. Et de cet espoir, il est né un autre espoir. C'est comme ça, toute la vie c'est comme ça. C'est-à-dire que tu y crois ou tu n'y crois pas. Maintenant, celui qui n'y croit pas aujourd'hui, pourquoi il va y croire demain? Sur quoi il va pousser l'espoir de demain s'il n'y a pas un terrain pour le faire pousser? Maintenant, c'est toi qui crée ce terrain-là. Donc, la Emouna, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Maintenant, le segment de présent, c'est combien? Un an, un mois. À la Torah, elle dit un jour. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim et tzavecha ayom. Le Magui de Metzerich, il dit, quelqu'un, il doit avoir la Emouna que chaque jour, c'est possible. Chaque jour, on peut tout recommencer. Chaque jour, on peut tout sauver. Tu dis, écoute, on est quand même pollué par notre passé. Ça fait quand même 17 ans qu'on s'insulte dans ce couple. Comment on va faire? Ayom. Tu dis, cet enfant, il y a eu beaucoup d'erreurs. Ayom. Tu dis, ce business, ayom. Tu dis, moi, j'ai fait beaucoup d'avérotes. Ayom. J'ai la barbe et je vais voir des prostituées. Ayom. Tu veux ayom ou ayom? Tu veux ayom? Ayom. Tu dis, non, j'arrive pas. Alors c'est comme tu veux. Maintenant, il y en a qui polluent leur ayom avec leur passé. Il y en a qui polluent leur ayom avec leur futur. J'ai trop peur, j'y arriverai pas, je suis pas au niveau, c'est trop difficile. Jamais je pourrai être chômeur Shabbat. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que t'attends d'être obligé de le faire? Si t'es juif, encore une fois, si t'es pas juif, c'est pas grave, t'as fait une croix dessus, que Dieu te protège. Mais si tu es juif, pourquoi tu attends d'être handicapé ou là à la retraite? Ah, il m'a dit, monsieur le rabbin, moi, à 60 ans, je vais être chômeur Shabbat. Comme ça, il m'a dit. À la retraite, si Dieu veut, à 60 ans, pile! À l'époque, c'était 60 ans. Je vous promets, c'est le père d'un copain, moi. Tout 60 ans, lui. La cache-croûte, 60 ans. Les misoires, 60 ans. Même les loisirs, il m'a dit à 60 ans. Il a acheté des livres pour les lire à 60 ans. Il a programmé les voyages qu'il va faire à 60 ans. Il a fait son anniversaire en famille, le jour de ses 60 ans. C'est ce qu'il a eu? Hémiplégie. Arrêt sur image. On a bloqué l'image, on a jeté la télécommande à la mer. Il est chômeur Shabbat. Il mange kasher. Il fait plus de la shonara. Il va pas tromper sa femme, je te promets que... Celui-là, il est tzadik, on remonte à Olam. Celui-là, il bouge plus. Il faut pas attendre la retraite à Bretagne. La vie, c'est aujourd'hui. C'est pas demain ou après-demain. Moi, je vous dis, je reçois des gens au téléphone. Demandez à mon secrétaire. Je les reçois. Ils me disent, je les vois, ils sont pas bien. Je prends des cours, je leur marque, je fais un programme, je leur envoie. Je vais, moi, à la poche, je les mets dans la boîte aux lettres. Ils me disent, ah, tu vas attendre demain, pourquoi? Peut-être demain, il sera pendu. Pourquoi demain? Des fois, ça se joue en heures. Tu vois, tu pars le matin, par exemple. Tu pars au travail. Hier, vous êtes engueulé avec ta femme. Maintenant, t'es pressé le matin, tu vas pas partir. Tu t'en vas. Ah, tu dis, bonne journée chérie. Maintenant, toi, tu as oublié, tu as bien dormi. Elle n'a pas dormi de la nuit. Ouais. Bonne journée chérie. Et elle te dit, bonne journée. Tu entends, je vais mourir maintenant. Et tu dis, bon, ils sont tous dépressifs dans la famille. On reparle ce soir. Et tu pars. Et tu arrives dans l'ascenseur, ça se sent dans la tête. Elle est bizarre. Elle avait une voix bizarre. Et tu prends la voiture. Elle avait une voix bizarre. Tu dis, bon, je l'appelle. Elle répond pas. Maintenant, t'as déjà fait 40 km, tu reviens ou non? Tu dis, écoute, je reviens ce soir avec le SAMU. Et tu reviens ou non? Peut-être tu vas revenir avec Benamou directement. Je dis, mais retourne maintenant. Moi-même, dans mon expérience personnelle de couple, ça m'est arrivé deux ou trois fois. J'ai vu personne sortir, je ne sors pas. Je reste maintenant. Maintenant, je m'assois et je... Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on règle l'histoire. Mais tu vas rater le rendez-vous, c'est pas grave. Je préfère rater le rendez-vous que rater mon mariage. Mais pourquoi? Il y a une voix à l'intérieur qui t'a dit quelque chose. On dit, Vélibé Omerli, mon cœur me dit, tu l'écoutes ton cœur ou non? Tu dis, non, tu l'écoutes. Je ne sais pas que ça va faire, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de soucis, vas-y, va bouffer ta caca et maintenant reviens. Tu dois savoir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Ton cœur, il t'a parlé, vas-y, agis. La semaine dernière, c'est beau ça, je vous dirai pour montrer à Ashgahat Hashem. J'étais dans une école. Maintenant, moi, je fais cours dans une école de BTS. Il n'y a que des filles, avec les trois quarts religieuses. Alors, vous connaissez un peu mon humour, vous avez un peu le genre. C'est des filles, elles sont célibataires. On est en 2011. Je ne vais pas faire genre. Je leur dis des petits mots. Ouais. Alors je leur dis, donc tu es dans la voiture avec le garçon, et le garçon il veut absolument vérifier la qualité du tissu, et plus si affinité. Mais toi tu es sérieux, c'est religieux, c'est une fille de famille, mais il est quand même. Et tu as fait croire à ta mère que tu étais à l'école, en vérité tu as rendez-vous avec lui, et elle croit que tu es à l'école. Maintenant elle ne sait pas pourquoi, elle veut te téléphoner maintenant. Vélibé Omerli. Et elle t'appelle. Et toi, tu es dans la voiture. Avec qui tu es dans la voiture? Avec Réhouven. Maintenant, je dis Réhouven, moi. Jamais je dis Réhouven. Et je raconte l'histoire. Et tu dis, pourquoi elle m'appelle? Et tu dis au garçon, arrête de me toucher, ne me touche pas parce que je suis pas bien. Ma mère, elle m'a appelé, je sais pas pourquoi elle m'appelle. Super. Après, dans la suite du cours, je raconte, je dis, oui, le garçon, il est pas sérieux. Et tu traînes avec lui, soi-disant, il est religieux, c'est pas religieux, je ne mange pas ce qu'il fait, il va revenir, il fait tchouva, il mange, il triche, il fume, il ment, il drague ta sœur. Et toi, tu sais pas quoi faire, mais quand même, je suis attaché, je l'aime, et il est bien, il est pas bien, je sais pas, mes parents, ils n'aiment pas, et moi, je l'aime bien. Et tu es comme ça, en train de faire une tchouka dans ta tête. Maintenant, moi, j'ai fait le cours, mais je l'ai oublié, moi. Le lendemain, je reçois un email. Monsieur le rabbin, hier, j'étais à votre cours, vous avez parlé d'une fille qui était en voiture avec un garçon qui s'appelle Réhouven. J'étais avec un garçon qui s'appelle Réhouven. Il voulait me toucher. Et au moment où il a voulu me toucher, le téléphone, il a sonné. Qui c'était? Ma mère. Après, vous avez raconté une deuxième histoire. Comment je vais faire pour me débarrasser d'un garçon qui n'est pas sérieux? Elle m'a dit, à 15h, j'ai compris l'histoire, j'ai fini. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu m'oublies, j'ai autre chose à faire. De toute façon, je passe mon BTS, je vais au séminaire, après on verra. C'est-à-dire, elle s'est éclaircie la tête. Maintenant, moi, c'est pas pour moi pour dire, genre, regarde ce qui m'arrive. Non, c'est pour dire, toi, tu parles, les autres, ils entendent. Oui? Toi, t'es sincère, l'autre, il est sincère. Ah, je vois quoi il fait, mais avec Zivugim. Comprenez ou non? Toi, tu ouvres la radio, tu entends sur la radio. C'est simple. Tu sais même pas pourquoi t'as parlé, tu sais même pas de quoi t'as parlé, tu sais même pas l'histoire que t'as racontée. Et l'autre, maintenant, il a entendu ce qu'il devait entendre. Ici, c'est pareil, maintenant. Si on veut donner et l'autre, il veut écouter, il va se passer quelque chose. Si on veut faire du spectacle et que l'autre, il veut pas participer à un truc de Gad Elmaleh gratuit, alors c'est autre chose. Mais si on veut qu'il se passe quelque chose, il peut se passer quelque chose. Ah, tu dis, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas demain? Et puis c'est compliqué. Maintenant, on vient d'ouvrir le magasin. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est pas toujours quand tu t'attends. Oui, ta femme, elle va pas déprimer le jour où t'as besoin, ou le jour où c'est le bon jour. Ton mari, il va pas truquer. La secrétaire, elle va pas te faire un coup de. Le jour où tu t'es préparé. Non, elle vient comme ça. Et toi, tu dis, ouf. Comment tu vas faire? Toute la vie, c'est comme ça. Donc, est-ce que tu es prêt ce jour-là à regarder dans le miroir et dire quoi? C'est ça que l'image que le bon Dieu m'envoie aujourd'hui? Et si tu vas dire, mais ça n'a rien à voir avec le bon Dieu, écoutez, c'est la vie, ce sont les circonstances de la vie, ça n'a rien à voir, mais que vous mettez le bon Dieu partout. Alors, vu que c'est un public mélangé, qu'il y a des barbes et des moins barbes, donc je vais essayer de vous dire quelque chose qui est ward à mi-chemin, hein, entre la Kabbalah et la psychologie. Comme ça, vous allez voir, vous allez me dire si on parle de la même chose. On dit que les Shemot d'Akadosh Baruch Hu, les noms d'Hachem, s'appellent des panim, des visages d'Hachem. Panim chez l'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, par exemple, Elohim, c'est la rigueur. Mais Elohim, c'est 86. Et c'est aussi Ateva, c'est la nature. Donc celui qui croit en la nature, c'est celui qui croit en Elohim. Donc lui, il est lié à la nature. La nature, c'est la conjoncture, donc il est soumis à la conjoncture, parce que c'est Elohim. Maintenant, la rigueur, comme la nature est rigoureuse, celui qui croit en la nature, il est soumis à la rigueur de la nature. Donc statistiquement, un type qui a ce genre de tumeur, il va mourir, puisqu'il croit en la nature. Et la nature, elle tue pour ce genre de tumeur. Ou quelqu'un, il croit Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est quoi? Yudke Vavke, c'est Yud, He, Vav, E. He, Vav, E, c'est OV, c'est le présent. Avec un Yud devant, c'est quoi? Il fait être le présent. Maintenant, Hachem, Yudke Vavke, il fait être. C'est lui qui fait être les choses. Maintenant, Hachem, Yudke Vavke, il est au-dessus d'Elohim, puisqu'il fait être la nature. Donc maintenant, celui qui croit en Yud Kevavke, il n'est pas soumis à la nature, puisqu'il va regarder l'impulsion de la nature, l'impulsion de Elohim. Donc comme il n'est plus soumis à Elohim, ouais, et ça ce qu'il a dit à Hachem, il a dit à Hachem à Abraham, il a dit Ani Kel Shakai, je suis Kel Shakai, Ani Yud Kevavke, c'est moi Shakai. Et Shakai, c'est qui? Shamar Leolamodai. C'est quoi Shakai? C'est le nom Shin Dalet Yud, c'est celui qui gère le Mazal. Donc maintenant, on a trois éléments. On a Yud Kevavke, on a Shakai, on a Elohim. Elohim, c'est la nature. D'accord? Derrière, il y a Shakai. Shakai, c'est le gestionnaire du Mazal. Maintenant, c'est quoi le Mazal? Le Mazal, c'est le grand gestionnaire global de la particule. Toutes les particules, elles ont des trajectoires. Les trajectoires, elles sont gérées pour pouvoir créer la réalité. Maintenant, le gestionnaire des trajectoires de la particule s'appelle Shakai. C'est bon? Rien ne se perd, tout se transforme. Vous avez appris à l'école, non? Rien ne se perd, tout se transforme. Maintenant, qui c'est qui gère ce qui perd et ce qui se transforme? C'est le Mazal. Maintenant, le Mazal, c'est qui le gère? C'est Shakai. Donc, Shakai, il gère la nature. Super. Maintenant, on a dit Yayud Kivavke. Entre les deux, il y a Makom. C'est quoi Makom? Makom. Ah, Makom Baruchou. Makom, c'est un nom d'Hachem. Le mot Makom, il vient du mot Mekayem. Mekayem, ça veut dire ce qui fait exister. Maintenant, qu'est-ce que c'est Makom par rapport à Yud Kivavke? Vous prenez Yud Kivavke. Le Yud, vous multipliez par lui-même, ça fait 100. Le E par lui-même, ça fait 25. Le Vav par lui-même, ça fait 36. Et le He par lui-même, ça fait 25. Ça fait 186. 186, c'est Makom. Donc la démultiplication du Yudke Vavke, ça donne Makom. Maintenant, Makom, c'est quoi? C'est le lieu. C'est l'espace. Ouais. Donc le lieu, c'est ce qui rend possible. Tout ce qui rend possible s'appelle le lieu. Donc Hachem, Yudke Vavke, il crée le présent. C'est le temps. Parce que Aya Oveveye, il est, il était, il sera. Donc maintenant, c'est pas que Dieu, il est omniprésent. Dieu, c'est le présent. Je vous ai fait gagner à peu près 10 ans de Hassidut. D'accord? C'est pas que Dieu, il est dans un espace qui s'appelle le temps, dans lequel il est toujours présent. C'est que Dieu, c'est le présent. Yud Kevavke, ouais, ou Me'ave est à Ove. C'est lui le Ove. C'est lui. Donc si Dieu, c'est l'espace, Makom, et Dieu, c'est Yud Kevavke, c'est le temps, donc Dieu, c'est l'espace-temps. c'est toujours bon. Donc Yudkei Vavkei, il fait exister Makom, qui fait exister Shakai, qui fait exister Elohim. C'est bon. Maintenant toi tu décides. Si toi tu gardes un lien privilégié de Emouna avec Elohim, c'est la nature. Si toi tu te soumets à Shakai, c'est dans le Mazal. Si toi tu te soumets à Makom, c'est les circonstances. Et si toi tu te soumets à Yudkei Vavkei, il n'y a rien. Tout peut changer d'un instant à l'autre. Il n'y a pas de limite. Ça va? Donc ton degré d'Emouna, selon la connaissance que tu as et selon la perception que tu en as, parce que ça ne suffit pas de savoir, il faut que tu deviennes ce que tu penses. C'est beaucoup de travail. Oui? J'ai compris. Mais on est d'accord. On n'a jamais quitté ce monde, là, pour l'instant. Mais regardez, pourquoi Hachem, il a créé Windows? Mais c'est Windows. Pourquoi Hachem, il a créé Windows? Mais c'est pas Hachem. Windows, je rappelle pour les gens, est un environnement virtuel qui permet de se déplacer dans un système dont on ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Avant, tu voulais faire un truc sur ton ordinateur. Il fallait marquer C:// J'en peux plus. Il y a un mec qui est venu. Il a dit, je veux vous simplifier l'histoire. Je vous crée un environnement virtuel. Dans cet environnement, il y a des onglets. Toi, tu cliques. Maintenant, tu cliques sur l'onglet imprimante. L'imprimante, elle se met en marche. Tu dis, mais c'est extraordinaire. Maintenant, tu sais ce qui se passe, toi, entre l'onglet de l'imprimante qui n'existe pas. C'est Word 1.0, 1.0, 1.0, et des fois 0.0.0.0. D'accord? Et l'imprimante, tu sais pas. Maintenant, tu sais ce qui se passe, toi, entre les téfilines et les olamot. Tu sais ce qui se passe, toi, quand tu dis un gros mot à ton fils dans ses olamot à lui, à l'intérieur, comment il se... Tu sais, toi? Tu sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Pour qu'on puisse se déplacer dans un monde qui est entièrement spirituel, il a créé un environnement virtuel qu'on appelle Alma des Shikra, ce qu'on appelle de manière grossière la réalité. Parce que même les goïms, ils sont mistapkim sur l'existence de la réalité. Tu sais, il y a un livre qui s'appelle Le Cantique des Cantiques. Vous l'avez lu celui-là ou non? Le Cantique des Cantiques. C'est bien lu, non? Cantique des Cantiques. Non? Ça vous dit quelque chose? Non. Le Cantique des Cantiques, Q-U-A-N-T-I-Q-U-Q-E-S. Le Cantique des Cantiques, la loi quantique, la physique quantique. C'est des goïms, ils ont écrit ça. C'est un petit livre, vous pouvez le lire aux toilettes. Ouais, c'est pas un mazik. Au contraire, ça peut aider. D'accord. Ils disent là-bas, ils disent, c'est quoi? Ils posent la question, ils disent, est-ce que le monde existe? Est-ce que le monde existe? En vérité, le monde, c'est un halom. C'est normal. Parce que si tu regardes le monde au niveau de sa structure la plus élémentaire, c'est-à-dire de l'énergie, après au-dessus, tu regardes l'atome, la molécule, après, qu'est-ce que tu vois? Et c'est des halomotes. En vérité, il n'y a rien. Donc en vérité, le monde, c'est un halom. L'image du monde. Regardez par exemple ce livre, vous le voyez ou non? Ce livre, là, vous le voyez? Oui ou non? Si vous ne le voyez pas, il faut acheter un chien d'aveugle. Ouais. Vous le voyez? Si vous le... Maintenant, ce n'est pas le livre que vous voyez. Vous le savez très bien que ce n'est pas le livre que vous voyez. C'est la lumière qui se reflète sur le livre. Donc la lumière, elle part du lustre, elle rebondit sur le lustre, sur le livre, elle rentre au fond de ma rétine, elle reproduit l'image inversée, et mon cerveau, qui a une caractéristique extraordinaire, il remet l'image à l'endroit. Ça va? Donc, ce que je vois, c'est pas le livre lui-même, c'est l'image du livre. C'est la lumière du livre. Ça va? Oui ou non? D'accord. Maintenant, quand je vois l'image du livre, c'est quoi que je vois? C'est qui voit? Je dis, attends, de quoi tu parles? C'est moi! Mais c'est qui, toi? Ton œil, il voit rien, ton œil. Ton œil, il n'est pas conscient que tu vois. Ah, tu dis, mais c'est qui? Ton cerveau, mais ton cerveau, c'est d'électronique, qu'est-ce qu'il voit? Ah, dis, mais c'est ma conscience. Super. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ta conscience qui voit la lumière du livre. Donc, il y a que deux éléments dans le monde. Il y a la lumière et la conscience de la lumière. Maintenant, si tu n'as pas la conscience de la lumière, il n'y a pas de lumière. La preuve, si le livre, il est là. Il n'existe pas. Et quand il est là, il existe. Maintenant, vous savez, dans le Zohar, on dit que Retsonot. Toutes les lumières, ce sont les volontés d'Hachem. C'est que la lumière, elle n'est pas ici pour nous créer une réalité. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la réalité? Comme à l'école, on s'en fout que tu fais des dissertations, que tu fais des exercices de maths, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les midot intellectuels et que tu vas développer à travers les exercices. Donc le monde entier, c'est un cas d'exercice. Le bon Dieu, c'est le proviseur. Le Yetzirah, c'est le directeur des travaux dirigés. Les épreuves, c'est les exercices. Et l'examen, c'est les grands examens. Le mariage, les naissances, la bar mitzvah, c'est des examens. Examen extérieur, âme, c'est ce qui fait sortir ton âme. Examen. Oh, je suis en examen, oui, je vais mourir. Oui, c'est normal, d'accord. Donc maintenant, si je dis, détendez-vous, si je dis que la perception que j'ai de la réalité, c'est ce qui fait exister la réalité, et si je n'ai pas conscience de la réalité, il n'y a pas de réalité, ouais, Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, nous, on dit Orot Zeretzonot. Donc maintenant, imaginez que la lumière, c'est que la symbolique du Ratzon Hashem. Parce que c'est marqué au départ, Hashem, vous savez qu'Hashem n'a pas créé la lumière, vous êtes au courant. Gvar Haïta, elle existait. C'est quoi le or? Le or original, le premier or. Ouais, comme c'est marqué, Vayomer Elokim Yehi Or. Alors, le Amar Rabbi Yehuda, il dit le Midrash, Gvar Haïta, elle existait déjà. Donc Hashem n'a pas créé la lumière, il n'a fait que la transformer. Pour ça, on dit Yotzer Or ou Boré Rocher. Il n'y a pas écrit Boré Or. Hashem n'a pas créé à partir de rien la lumière. Il est Yotzer seulement, il forme la lumière. Mais la lumière, il ne l'a pas créée. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Cette lumière-là, il a transformé par un système de transformation qu'on appelle une série de transformateurs qui s'appelle les Sphirotes, Ishtal Sheluta Or, pour arriver à un Or avec lequel on peut vivre. Maintenant, comment il s'appelle le Or avec lequel on peut vivre? Il s'appelle l'énergie. Comme ça, il dit le Rav Munk. Ouais. Donc l'énergie qui forme la réalité, ça n'est qu'une transformation viable de la lumière originale avec lequel l'homme n'est pas viable. Parce que l'Oyareni Adam Vahai, un homme ne peut pas vivre avec l'énergie pure. Parce que Dieu, il est antimatière. La volonté de Dieu, elle est comme Dieu, elle est antimatière. Donc si la matière, si Dieu est antimatière, donc la matière ne peut pas être vivre avec Dieu. Donc il a été obligé de créer un espace, un pargode, une séparation, pour que nous on puisse vivre, pour qu'on puisse exister dans la matière. Parce que si Dieu est antimatière, donc la matière est anti-Dieu. Donc quelqu'un qui est profondément matérialiste, c'est pas une question de connaissance qu'il n'arrive pas à sentir Dieu. C'est parce que la matière est anti-Dieu, puisque Dieu est anti-matière. Quelqu'un qui est grossier, qui voit que des poitrines et des sandwichs, il peut pas s'intéresser à la philosophie. Non, des poitrines de dinde, qu'est-ce que vous avez imaginé? C'est des sandwichs aux poitrines de dinde, avec une belle blonde. Une brune, une bière blonde. Oh, il y en a qui préfèrent les religieuses. Les chocolats, les gâteaux. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a ce soir? Vous êtes tous excités ou quoi? Bon, je recommence. Donc vous avez la lumière là. Bon, c'est hors sujet, mais ça on ne me le compte pas dans le temps. Hein. Ouais, c'est pas grave. Comme ça, vous avez la lumière. Donc la lumière d'Hachem, c'est le Ratson. Donc le Ratson Hachem, il part. Il transforme la matière. D'accord? Il me renvoie l'image de la matière. Maintenant, le fait que moi, je suis conscient que la matière existe. C'est moi, ma conscience, et le Ratzon Hashem. Donc dans le monde, il reste deux choses, la conscience et le Ratzon Hashem. Ça va? Ça va ou non? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Behemet, il n'y a rien d'autre. Zekeli, V-N-V-U, Ani, V-U, Ani, V-U, c'est tout. Tout le reste, c'est des halomot. Tu dis, mais enfin, écoutez, il y a quand même la réalité, la matière, le salaire, les métastases. Je dis, tout ça, c'est dans ta tête. Tu te rends malade. Maintenant, le dérèglement, il part de très loin, il peut aller très loin. Il se règle de très haut, il se règle de très haut. Mais c'est quoi la réalité? C'est quoi la réalité? C'est quoi? Parce que les gens, ils parlent toujours de la réalité. Vous savez, quand j'ai écouté M. Rama, il faut quand même être réaliste. Mais t'es marié avec quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un shawarma organisé de manière harmonieuse? Ou tu vois une personne, une neshama qu'Hachem t'a envoyée pour que tu vives avec elle? Il faut être très clair. Les gens disent, mais écoutez, ça n'a rien à voir. Écoutez, la très beauté est importante. Je dis, d'accord, maintenant elle a vieilli, elle a grossi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, tu te remets en cause. Donc ça veut dire que depuis le départ, ton problème, c'est quoi? C'est un shawarma d'organiser de manière harmonieuse. Non, c'est clair. Les gens, ils tournent autour du pot. Mais non, si on peut faire des nuances, ça ne sert à rien. Pourquoi faire? Il vient chez moi. Monsieur le rabbin, elle a grossi. Mais qu'est-ce qu'il fait chez moi? Il vient chez moi, il m'a dit, ma femme n'est pas sensuelle. Je dis, ta mère, elle est sensuelle. Il m'a dit, mais comment vous parlez de ma mère? J'ai fait, t'as vu comment tu parles de la mère de tes enfants, toi? Il faut être clair. Shiyu divrei Torah mechudadim beficha. Clair. Le shochet, il tranche. À quoi ça sert? Arrête. Toi, mon frère, c'est très simple. Les goyim, ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Où t'as regardé ailleurs pour trouver qu'elle a vieilli? Pourquoi t'as pas vieilli, toi? Les pectoraux, ils sont pas devenus des abdominaux. Faut dire la vérité. Les cheveux, quel outil, quel shampoing tu utilises? Mshifhalam. Eh ben, ils sont partis. Elle a rien dit. Les performances sportives, ya hasra, elle a rien dit. Et toi, maintenant, tu dis à la grossie, il faudrait qu'elle fasse des opérations, il faudrait. Mais tu lui avais dit à l'époque, nous vieillirons ensemble. Tu dis, alors, toi, vous n'avez pas vieilli ensemble? C'est ça la réalité. Comprenez cette logique-là? Donc maintenant, quand quelqu'un y regarde quelque chose, c'est que sa conscience qui le rattache à la chose. Vous voulez la preuve? Vous avez 2 minutes ou non? Je vous l'ai déjà fait ça, mais je ne sais pas pourquoi je suis obligé de le refaire. Je vois que les gens ils ne révisent pas. Écoutez bien. Si quelqu'un, alors allez-nous, il a perdu les deux bras dans un accident de moto, ouais, et qu'on lui greffe 2 bras, est-ce que quand il sort du coma après l'opération, c'est la même personne avec 2 autres bras ou c'est une autre personne? C'est la même personne. Décidez-vous, les gars. Bah, c'est la même personne avec 2 autres bras. Bah, évidemment, et quand tu tiens un stylo, c'est un autre type. Quelle différence entre le bras et le stylo? Ouais. Ah, maintenant, ces 2 bras, ils ont été prélevés sur le corps d'un condamné à mort, qui lui-même avait étranglé 74 femmes. Et dès que la greffe, elle est là, et il y a ta belle-mère qui vient te voir à l'hôpital, c'est bizarre. Il y a une tendance. Netia Taneshama, ouais. Comment ça se fait? Bon, c'est la même personne, mais avec un autre bras, d'accord. Maintenant, imagine cette personne, elle, c'est tout le corps qui est malade, allez, ouais. Elle a le grand corps malade, c'est devenu une chanson, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et le... Détendez-vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les métastases, elles ont entièrement atteint le corps, mais il n'y a que le cerveau qui n'est pas touché par le cancer. Qu'est-ce qu'on fait? On prélève le cerveau au dernier moment, on le met dans un corps sain qui est mort d'une crise cardiaque, il est en pleine forme, il est mort comme ça. Ouais. Mais dans son cerveau, il est sain, il se réveille le type, d'accord? Manque de peau, lui, il était très raciste et blanc, et on l'a mis dans un corps de noir, un antillé. Il se réveille, il se voit dans la glace, déjà il a la haine contre lui. Il attrape le médecin, il dit, mais vous êtes un malade. Vous mettez dans un corps de noir alors que je suis raciste. Oui. Alors le médecin, il dit, estimez-vous heureux, vous êtes antillais. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Donc c'est quoi l'idée, ouais? Détendez-vous. Donc c'est quoi l'idée? C'est que c'est encore la même personne, ouais, mais il est dans un autre corps, vous me suivez? Maintenant, même son cerveau, il est malade à celui-là. Il a fait trop de bêtises dans sa vie. Qu'est-ce qu'on fait? La métastase, elle est déjà rentrée dans le cerveau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui prélève toute la mémoire. Une petite carte, 2 gigas, il n'a pas beaucoup vécu, d'accord? On lui prélève tout dans une carte mémoire et on le remet dans un corps net. On l'a effacé le disque dur d'un autre type qui est mort. On lui remet toute la mémoire. Maintenant, il se rappelle de tout. Depuis sa naissance jusqu'au jour du matin de l'opération. Il se rappelle de tout. La maternelle, la femme qu'il a épousée, ses enfants, tout. Est-ce que c'est la même personne dans un autre corps ou c'est une autre personne? C'est encore la même personne. Parce que vous êtes qui? Vous êtes votre mémoire. Comment tu t'appelles? Où tu habites? Qui c'est ta femme? Tes amis? Où tu as vécu? À quelle école? Toi, tu n'es qu'une mémoire. Maintenant, celui-là, même la mémoire, elle est malade. Il a fait des très grosses bêtises. Alors, on lui efface tout le disque dur. Il se réveille amnésique. Mais il a conscience de la réalité. Ouais, c'est lui qui a conscience, mais il ne se rappelle de rien. Est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? Donc, à l'amnésique, c'est une autre personne. Donc, c'est la même. Donc ça veut dire, par voie de déduction, qu'une personne, c'est ni son corps, ni son cerveau, ni sa mémoire. C'est que sa conscience. Même pas l'esprit. L'esprit, c'est encore un outil. La conscience, c'est l'arc électrique qui s'établit entre toi et ta réalité. Tu es conscient ou tu n'es pas conscient. Ça va? Attention, c'est très important, parce que ça a l'air comme ça d'être un petit peu sympathique, mais sachez que le degré de conscience que l'on aura dans l'Olam Haba d'Hachem, il dépend du degré de conscience qu'on a dans l'Olam Hazé. Parce qu'on dit « Ikar Talmud Torah, la Da'at est Hachem ». Donc la perception qu'on va avoir d'Hachem, est-ce qu'on va le voir comme une pointe de lumière au fond de l'univers, ou est-ce qu'on va le sentir clairement comme ton grand-père qui te serre la main, ça va dépendre du degré de conscience qu'on a ici. Et c'est pas culturel ça. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'à force d'Irat Shamaim et de Mitzvot et de Limouda Torah et de d'élévation et de Kavana, on va faire qu'on va donner une réalité à quelque chose qui n'en a pas pour qu'arriver là-haut, ce qui n'en a pas en est une. Ce que je te dis de toi, qui c'est toi? Ton corps, c'est rien, c'est de la viande. Vous me suivez ou non? On a dit ta mémoire, c'est rien, c'est un cumul. Donc qu'est-ce qui reste de toi? Il reste que la conscience. Donc si on reprend notre exemple, on a dit tu vois le livre. En vérité, c'est quoi le livre? Je te dis c'est de la lumière. D'accord, la lumière c'est quoi? C'est la symbolique du Ratson Hachem. Donc Hachem, il envoie du Ratson qui crée la réalité. Ouais, en vérité, pour vous dire, le or du départ, c'est le Ratson Hachem. D'accord? Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le yud dedans. Yud, qui est le yud, c'est la chorma. Le yud dans le or, ça fait avir. Comme ça, il dit le Zohar. Kadnafik yud me avir it galia or. Lorsque tu enlèves le yud de avir, ça fait or. Donc le avir, c'est l'air. L'air, c'est quoi? C'est tout. Donc maintenant, quand tu vois l'air, tu vois le Ratson Hachem avec la Chochma d'Hachem. Maintenant, le or, c'est l'énergie pure. Ouais. Et le yud, c'est la Chochma. Donc il y a une énergie structurante, active, qui crée la réalité au fur et à mesure. Et une énergie stable qui reste, qui est depuis le début, que Hachem n'a plus rien créé après ça. Ça va? C'est bon pour vous? Maintenant, si je dis que quand je vois la réalité, je ne vois que le Ratzon Hashem. Maintenant, moi qui en suis conscient du Ratzon Hashem, c'est quoi? C'est le lien que j'entretiens avec ce Ratzon Hashem. Ça va? Maintenant, qui c'est le moi qui voit ça? C'est moi. Maintenant, qui c'est qui donne au moi le pouvoir de voir? Non, mais c'est bien pour vous. Ça vous évite de faire 20 ans de yeshiva. Attention, ça fait pousser la perruque. Donc c'est quoi l'idée? En fait, l'idée c'est comme ça. C'est que la Neshama, elle est là. Hachem, il est là. En résumé. Hein. Maintenant, Hachem, il envoie son Ratson. Et Hachem, il dégage une énergie par la Neshama. Ben, la Neshama, elle est divine. Donc l'énergie qui sort de la Neshama est de la même nature. Maintenant, au moment où l'énergie de la Neshama traverse mon psychique et que là, elle rentre en contact avec ma conscience, je peux lui donner une connotation à cette énergie qui reste divine. Ça s'appelle la personnalité. Je peux lui donner une orientation. Ça s'appelle le libre arbitre. Ça va? Bon, je répète. Bon, je vais un peu vite, je m'excuse, mais comme j'ai des barbus devant moi, c'est un peu compliqué. Donc je recommence. Écoutez bien. Je vais essayer d'être pédagogique. Là, on est en train de traverser des olamotes. Là, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train d'absorber. Je sais que c'est différent un peu des blagues de tout à l'heure, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Mais bon, les gens y croient. Là, c'est un clown, là, c'est un type sérieux. Bah, bonne note. Moi, je fais le même yesodo dans la blague, mais les gens, ils ne comprennent pas, parce que comme ils sont déstabilisés par la blague, ils ne réfléchissent pas au yesodo qu'il y a dedans. Mais c'est la même chose. Écoutez bien, écoutez bien. Imaginez une montagne. Vous me suivez toujours? Une montagne. En haut de cette montagne, il y a une source. De la source, il coule de l'eau. Cette eau, elle est pure. Maintenant, devant la source, à l'embouchure, il y a un monsieur avec une bouteille de colorant rouge. Et des bouts de bois et des pierres. Maintenant, il peut verser un peu de colorant dans l'eau qui coule. Maintenant, s'il met 1% de colorant et qu'il y a 99% d'eau, l'eau devient rouge. Mais ça reste de l'eau, à 99%. Mais il y a un peu de colorant, elle devient rouge. Après, il peut orienter ses pierres, avec les pierres et les bouts de bois, il peut orienter l'eau à droite ou à gauche. Super. Maintenant, la Neshama, elle produit une énergie. Cette Neshama, elle est divine. L'énergie qui sort de l'âme, elle a exactement la même nature que la Neshama. Donc, puisque la Neshama est divine, donc l'énergie qui sort de l'âme, elle est divine. Maintenant, l'énergie au moment où elle sort de l'âme, alors en médecine, on l'appelle la vie. En psychologie, on l'appelle la volonté. D'accord? En philosophie, on l'appelle l'essence de l'être. C'est pas grave, c'est rien que des mots. Ce qui compte, c'est que cette énergie, elle va traverser des couches. Donc, quand elle passe de la Neshama au psychique, on l'appelle la volonté. Quand elle passe du psychique au physique, on l'appelle la motivation, celle qui fait bouger le corps. Quand elle passe du physique au vécu, on l'appelle la détermination. Qu'est-ce qui véhicule tes choix? C'est la volonté. Bederer, Sherot, Seleler, Molichinoto, c'est une énergie. Comme l'énergie électrique. Quand elle sort quand elle rentre dans le radiateur, c'est de la chaleur. Quand elle rentre dans le micro-ondes, c'est des ondes. Quand elle rentre dans l'ampoule, c'est de la lumière. Mais c'est toujours la même énergie. Ça va? Maintenant, l'énergie de l'âme, encore une fois, quand elle sort de l'âme, elle est divine. Maintenant, le monsieur qui est devant l'embouchure, c'est qui? Ah oui, la montagne, c'est le corps. La source, c'est la Neshama. L'eau qui sort de la source, c'est l'énergie qui sort de l'âme. Maintenant, le monsieur qui est à l'embouchure, c'est le moi. Il a une bouteille de colorant. Ça s'appelle la personnalité. Ça va? Après, il a des bouts de bois, il a des pierres. Il peut orienter le ruisseau à droite ou à gauche. Donc, on se résume. Le corps, c'est de la viande, d'accord? La Neshama, c'est entièrement divin. L'énergie qui sort de l'âme, c'est aussi divin. Maintenant, même après qu'elle est sortie de l'âme, et qu'elle est déjà dans le psychique, et qu'elle est dans le physique, et qu'elle est dans le vécu, elle reste divine. Mais elle prend une connotation 1% de humaine. Donc ça veut dire que tout l'homme dans la réalité, ça n'est qu'une connotation personnelle et une orientation personnelle qui est donnée à une énergie divine qui le traverse. C'est bon pour vous? Super. Maintenant, si j'arrive à garder la pureté de cette énergie depuis la Neshama jusqu'à dehors, ce qu'on appelle les tzadikim, oui, c'est comme un malach. Un malach, c'est un véhicule du Ratzon Hashem. Donc on dit, le Rav, il est dommé les malach Hashem Tsevakot. C'est pour ça que le Tania, il dit que le Merkava, c'est que le cocher, c'est le tzadik. Le cocher, c'est Hachem, et le Merkava, c'est le tzadik. C'est une charrette. Maintenant, le tzadik, il porte le Ratzon Hashem. Maintenant, le Baal HaTania, il dit, quelqu'un, il peut tellement être mévoutal au Ratzon Hashem que même la Merkava, devient Ratzon Hashem. Ça va? Pour ça, quand tu le vois, tu vois Ratzon Hashem. Maintenant, si c'est comme ça, on se remet ensemble. Là, il y a Hachem qui fait créer la réalité, d'accord? Maintenant, Hachem, il ne crée cette réalité qu'en concordance avec l'homme. Donc, d'un côté, il y a la Neshama, d'un autre côté, il y a Hachem. Maintenant, la Neshama, elle produit exactement la même volonté qu'avec laquelle Hachem crée le monde. Donc la conjonction de la volonté d'Hachem qui vient sur la réalité, qu'on a dit le Yud dans le Hor, et la conjonction de la volonté d'Hachem qui sort de Maneshama, vous me suivez toujours, parce que même s'il y a une connotation de 1%, ça reste quand même de la volonté d'Hachem, c'est toujours bon. Mais elle passe par le psychique, par le moi. Maintenant moi, je peux avoir une grosse gaava et polluer l'énergie d'Hachem. C'est pour ça que Amara Kadosh Baruch Hu, à la Gaftan, en ani veu yachulim lador ba'olam. Ouais. Maintenant, moi, je peux avoir beaucoup de matériel, ouais, et polluer cette énergie. Comme de l'eau, je peux mettre une tonne de ciment, ça devient un parpaing. Maintenant, si quelqu'un, il est Kadosh, et c'est quoi Kadosh? Kadosh, c'est Mouv d'Almina Homer. Donc, il ne fait plus écran de matérialité sur l'énergie d'Hachem. Si quelqu'un, il est Anav et il a Irat Shamaim, donc il n'a plus de pollution, il n'a plus de pollution spirituelle ou intellectuelle. Donc l'énergie de la Neshama, elle arrive dehors avec la même qualité qu'elle avait à l'intérieur. Ça s'appelle Tzadik Gozer, Jouchou Mekayem. Retson, Ireav, Yahasé. C'est normal que c'est Retson, Ireav, Yahasé, puisque en fait c'est Retson Hachem qui n'est même pas pollué par Ireav. Donc il reste Retson Hachem. Maintenant, comment Hachem crée le monde avec son Retson? C'est pour ça que c'est marqué, si Hachem, Chaz Veshalom, il enlève son Retson pendant une seconde, le monde il revient au Kao, au Kao, Tohu Bohu. Et c'est quoi le Tohu Bohu? C'est la matière originelle, le Or sans le Yud. Non, mais je suis compliqué parce que j'ai des barbes, j'ai des pas de barbes. Écoutez, que tout le monde mette la perruque, qu'on soit clair. Il faut dire BN, BN, c'est une marque de gâteau, ça veut dire Blinéder. D'accord, donc je vous traduis. C'est quoi l'idée? Non, mais moi, je veux juste vous amener une idée. C'est ça qui m'intéressait. Maintenant, j'ai fait des préliminaires pour vous pensez pas que j'invente des trucs ou que là, je vous fais des travaux philosophiques. Non, c'est très fondé. On peut s'asseoir, on peut ouvrir les sfarim, c'est la même chose. Mais moi, je voulais faire un raccourci. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que si je dis qu'il y a... En fait, on a dit, il y a Hachem d'un côté, il y a l'homme de l'autre. Mais en vérité, Hachem, derrière l'homme, il y a la Neshama. Parce que qui c'est qui te donne le pouvoir d'avoir la conscience d'Hachem? C'est la Neshama. Donc en fait, la Neshama, elle envoie une impulsion d'énergie. Et Hachem, il envoie une impulsion d'énergie. La conjonction des deux énergies s'appelle la réalité. Maintenant, le fait que toi, tu sois conscient que cette énergie existe, ouais, c'est un cadeau qu'Hachem t'a fait. Maintenant, imaginez, le pasouk qui dit dans Bereshit, il dit Hachem, il a laissé les graines dans la terre, mais il n'a pas envoyé la pluie tant qu'il n'y avait pas un homme qui en a éprouvé le besoin. Ça va? Ça veut dire que le potentiel de la réalité ne se réalisera que parce que tu es conscient du besoin que tu en as. Donc le potentiel de tes enfants, il ne se réalisera que parce que tu y crois. Ton couple, il s'améliorera que parce que tu t'investis dedans. Ton business, il se développe que parce que tu as foi. Et c'est quoi la foi? Odon Kolo. C'est de véhiculer la trajectoire de l'énergie divine dans ta réalité à toi. Ah, tu dis, mais la réalité, c'est que des repères virtuels comme Windows. C'est pas grave. Tout est bon. Vous en faites pas. Au pire, c'est vrai. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse à moi? C'est que quand je vous ai dit tout à l'heure que la vie, c'est un miroir, ouais, que d'un côté, il y a Hachem, d'un côté, il y a l'autre, il y a toi. Mais toi, en vérité, même toi, tu participes d'Hachem. Maintenant, puisque toi, tu participes d'Hachem, donc l'autre aussi participe d'Hachem. Ça veut dire que quand ta femme, elle te fait une remarque, tu dois réfléchir qui c'est qui lui a donné l'idée. Bah, tu dis, bah, c'est où son Yetzera, où son Yetzera Tov? Si c'est son Yetzera, c'est une mauvaise idée, c'est de la mauvaise volonté. Si c'est son Yetzera Tov, c'est de la bonne volonté. Maintenant, je vous rappelle, pour les gens qui sont nés ce matin, que les Yetzera et les Yetzera Tov sont des anges d'Hachem. Ça va? C'est-à-dire que dans l'absolu divin, quand quelqu'un il fait la volonté du Yetzera, il fait la volonté d'Hachem. Celle-là, on ne l'a pas appris à l'Yeshiva. Ne vous en faites pas, il ne faudrait pas que je meure maintenant, sinon vous allez rester avec une grosse question, mais je vais vous expliquer. Écoutez bien. Le Yetzera, c'est un ange d'Hachem. Voilà. Donc maintenant, l'ange, il est là pour créer une proposition. Il fait une proposition positive ou une proposition négative. Maintenant, il y a des propositions qui sont faites pour lutter, ça s'appelle Sourmera. Il y a des propositions qui sont faites pour adhérer, ça s'appelle Asetov. Des fois, tu dois adhérer à une proposition, vas-y, travaille. Des fois, c'est un piège. D'accord? Maintenant, c'est quand même Hachem qui a envoyé le piège. Maintenant, si ta femme, maintenant, elle est dans une mauvaise posture de négation, donc elle a une proposition de te dire un gros mot. Si elle dit le gros mot, tu as deux solutions. Soit tu essayes de voir la bonne volonté qui est derrière la mauvaise, et tu essaies de retrouver le contact avec la bonne volonté, c'est-à-dire que la femme que tu as épousée. Parce qu'on dit, quand un homme il veut faire une avera, on dit maskirimlo yomamita. On lui rappelle le jour de la mort. Moi, j'ai rajouté, j'ai dit, quand un homme il veut s'engueuler avec sa femme, on lui dit maskirimlo yomachupa. Rappelle-toi de la choupa. Ne regarde pas le présent, rappelle-toi de la choupa. Tu vas dire, on était plein d'espoir, on était plein d'amour, on était plein de rêves. Eh bien, reviens. Reviens, tu fais pleurer ta mère. Ouais, on revient au positif. D'accord? Donc cette idée-là, c'est quoi? C'est que moi, je réfléchis. Je dis, voilà, maintenant, voilà la proposition qu'Hachem me fait à travers ma femme. Voilà la proposition qu'Hachem me fait à travers mon fils. C'est ton fils qui fait des bêtises. Tu crois que c'est quoi? C'est un hasard. C'est une proposition. Maintenant, toi, tu dis, il faut que moi, je règle ce problème. Tu dis, mais que j'en ai un fou qui... Mais non, 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 non. Hachem ne se trompe pas. Le furi ne tombe jamais loin de l'arbre. Les pommiers font des pommes, les fraisiers font des fraises, et les hamariers font des hamar. Donc quand tu te retrouves en face d'Ahmar, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire d'Ahmar pareil? Tu vas te dire que le bon Dieu ne se trompe pas, Hachemoukoumez avec Zivugim, Hachem il crée des couples. Les couples, c'est pas forcément la personne que tu épouses, c'est tout ce que tu as en face de toi, tes amis, tes ennemis, ta famille, les gens que tu supportes, les gens que tu supportes pas, c'est Hachem qui crée ça. Maintenant, cette réalité, elle te propose quelque chose. Donc ça veut dire qu'Hachem derrière, il fait avancer l'histoire. Maintenant, toi, tu dois répondre à la question, tu dis non, ça me concerne pas. Donc le bon Dieu, c'est un bleu, il s'est trompé. Au niveau de la redistribution des nissionotes, il t'a envoyé un truc qui ne te concerne pas. Moi, je crois que si tu ne te sens pas concerné, c'est parce que tu te sens trop concerné. En deux mots. Comme tu te sens cerné, tu te conduis comme un concerné. Ça va? Mais si tu dis, oui, d'accord, je suis cerné. Je suis cerné parce que le bon Dieu s'occupe de moi. Je suis cerné parce que c'est pas l'Ashgacha Pratit. Et je suis cerné parce qu'on peut pas échapper à sa réalité. Et je suis cerné parce que ma Emouna, elle est trop grande pour que je me moque de moi. Ouais? Et bien maintenant, il faut que je réponde à la question. Ça va? Vous comprenez ou non? Encore une fois, l'autre, il a une épreuve. Ou il va écouter un Yetzar ou un Yetzeratov. Mais moi, la proposition qui vient devant moi, elle est objective, puisque le bon Dieu se trompe pas. Donc moi, où je peux dire qu'elle est énervée, c'est pour ça qu'elle a dit une bêtise, mais au fond, c'est quelqu'un de bien, je l'adore, donc je vais parler avec son Yetzeratov, donc je vais la calmer, je vais dire, écoute, oublie la pollution, enfin non, viens, on construit. Ou je vais dire, ah, tu me joues les nerfs, ah ben moi, je vais faire la susceptibilité. Les nerfs, la susceptibilité, les nerfs, la susceptibilité, et on se croise. Et la vie, ça devient une série de rendez-vous manqués. Quand j'ai fait la tête, t'as fait des efforts. Quand j'ai fait des efforts, t'as fait la tête. Quand tu m'as cassé, je t'ai mal pris. Quand tu m'as truqué, je t'ai insulté. Quand tu m'as insulté, j'ai pris. Et voilà. Et après, les gens disent, oui, ça fait 17 ans qu'on souffre. Mais non, ça fait 17 ans qu'on se croise. Et si je lui dis, voilà. Elle vient me dire, ouais, j'en ai marre, t'arrives en retard. Je fais, stop! Elle me dit, mais t'es malade, je t'adore, t'es une femme extraordinaire, on a fait des enfants ensemble, je veux qu'on évolue, je veux qu'on grandisse, tout va aller, je t'aime. Je t'ai dit, écoute, tu m'as désarmé, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va s'asseoir, on va parler, on va régler le problème. Comment une ponctualité peut remettre en cause une globalité? J'arrête, je tue le, je coupe les, j'arrête l'hémorragie. Tout de suite, je coupe la fuite de gaz, tout de suite. Je rentre pas dans le jeu avec toi. Tu veux que je me conduise comme un Brel? Comme ça on va créer un club, ça s'appellera Jacques Brel. Je dis non, je rentre pas. Ouais, c'est trop facile, je te rends pas compte. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? C'est un malaise, on va le régler. Non, j'ai une souffrance, c'est une souffrance, on va en parler. Non, ici c'est trop dur, j'ai une dépression, on va aller voir le docteur. On va trouver une solution. Mais la femme que j'ai épousée, le mari que j'ai épousé, c'est pas celui-là. S'il te plaît, toi, tu arrêtes de jouer ton rôle, je veux parler à l'autre. Donc, quelle différence entre parler à l'autre femme que j'ai épousée, attention, et parler à l'autre homme qui a fait teshuva, qui est en moi. T'as compris ou non? Moi, je donne toujours l'exemple avec les autres, parce que c'est beaucoup plus facile de parler des autres. Ouais? Même quand on parle, par exemple, c'est la femme de l'autre qui a eu des problèmes. On parle pas de l'autre, parce qu'on parle toujours de la femme de l'autre. C'est plus facile. D'accord? Mais, vous l'avez arrêté, celle-là. Bon, c'est pas grave. D'accord? Mais moi, en vérité, je vous parle, quand je parle de l'autre, je parle toujours du reflet de l'autre chez moi. Nous, on n'a rien à dire sur les autres. On n'a même pas discuté parce que c'est pas notre domaine. Mais quand même, je me reflète dans un miroir. Il se trouve que le miroir, c'est toi. Je regarde, par exemple, je te parle. Par exemple, je vous parle. Si je vois que vous comprenez rien, je vais pas continuer. Ça sert à rien. Donc, vous êtes un miroir pour moi. Comme si vous ou non. Ça va? Moi, je m'adapte à vous. Ça s'appelle la communication. Communiquer, ça vient de commun. Commun, ça vient de comme un. J'espère qu'on est comme un. C'est bien, non? Sinon, on est comme deux. Après, comme trois, comme quatre. Après, il y a plein d'endroits pour brancher l'USB. Non, je veux qu'on soit comme un. Quand on est comme un, donc on a des choses en comme un, alors ça fonctionne très bien. Maintenant, si on n'a rien en commun, et on ne se comprend pas. C'est normal puisqu'on n'a rien mis en commun. Ils sont bizarres, les gens. Vous comprenez ou non? Il faut le construire. Il faut le construire. Et alors ça passe. Tu installes l'ordinateur, tu l'allumes. L'autre, il l'a laissé dans la boîte, il appelle la hotline, il dit, je comprends pas, j'ai acheté un ordinateur 1500 euros, il n'y a rien qui marche. Mais monsieur, vous l'avez installé? Non, après une heure après, il n'y a toujours rien qui marche. mais vous avez blanchi l'écran. Non. Après, vous avez branché le courant. Non. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Les gens, ils sont même pas branchés, ils s'étonnent qu'il n'y a rien qui passe. Mais je comprends pas, ma femme. Est-ce que vous avez allumé la connexion Wi-Fi? Est-ce que vous êtes sur le même réseau? Est-ce que vous avez un anti-voisin, un antivirus? Bah, tu peux pas parler d'amour avec ta femme si elle est droguée au feu de l'amour. Tu peux pas. Tu t'appelles Marlouf, elle t'appelle Willy. Même la nuit, des fois, elle crie « Ah, Willy !» Mais je m'appelle Marlouf. Donc tant que les réseaux étrangers ne sont pas effacés de notre zone, on n'est pas sur le même réseau. Vous comprenez cette logique? Tout l'informatique s'est écrit pour ça, pour nous faire gagner du temps. Donc maintenant quelqu'un il fait ça. Il dit maintenant moi j'ai envie de construire avec elle. Maintenant j'ai envie de construire avec lui. Mais je dis tout ça c'est quoi? C'est qu'un reflet. Ça veut dire ce qui m'intéresse moi c'est les 10% de toi que tu retrouves chez elle. Et les 10% de toi que tu retrouves chez ton fils. Et les 10% de toi que tu retrouves dans ton mignon. Ton mignon, il te ressemble. Ce qui se ressemble, ça semble. Ouais. Ta yeshiva, elle te ressemble. Ton bureau, il te ressemble. Maintenant, un jour, tu vas arrêter d'enlever la tache du miroir. Tu vas commencer à te regarder chez toi. Eh ben, c'est bien, tu commences à grandir. Cherche ta part à toi. Tu parles à l'un, elle accuse le mari. Tu parles à la femme, elle accuse le... Je dis, mais ta part à toi, c'est quoi? Les gens, ils se font des livres. Le jour, il y en a une, elle est venue, elle avait un cahier. J'ai eu peur. Elle a commencé... Mon mari, ma soeur, ma belle-sœur, ma belle-mère, ma belle-sœur, mon beau-frère, mon frère, 10 ans. Je lui dis combien, excusez-moi, j'ai réussi à l'arrêter. Je lui dis combien de pages? Elle me dit 10 pages. Je lui dis 10 pages. 10 pages de quoi? Elle me dit, c'est 10 pages de négation, que de la négation. Elle me dit, ah, je n'ai que de la souffrance, que de la mort, que de la. Je lui dis, écoutez, madame, je ne peux pas vous écouter si vous êtes. Vous ne pouvez pas m'assurer que vous avez au moins 10 pages de positif. Si vous avez 10 pages de négatif, vous avez 10 pages de positif. Et je lui dis, bon, une page. De racheter votre. Je dis, écoutez madame, si vous avez 10 pages de négatif et aucune page de positif, c'est que vous êtes objectivement subjective. Alors pourquoi je vais vous écouter? Je vais perdre le temps et vous aussi. Alors maintenant vous avez laissé déblatérer votre satan, maintenant on va parler des choses sérieuses. Faut qu'on commence à parler. Oui. Si tu te défends, tu te défends, je peux parler avec toi. Si tu te bats, je peux pas parler avec toi. J'ai ni tu te bats, ni tu te défends, on parle comme des gens lambeaux. On va y arriver. Alors je te dis encore une fois, je te donne l'exemple de la femme. Tu fais la même chose avec toi-même. Un jour tu vas dire, oui, j'arrive pas à prier, c'est pas difficile, c'est pas pareil, au début de la chouva, et tes trucs, et les racines, toi, t'en es où, toi? Tu as étudié la prière, tu as essayé de comprendre la prière, tu as fixé des objectifs dans la prière. Qu'est-ce qui va pas dans la prière? C'est partout, ouais. Et il est venu chez moi, il m'a dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je dois faire? Mes enfants, ils prient pas. Je dis, ah bon? Je dis, comment tu le sais? Il me dit, mais je les vois pendant la prière, ils ne prient pas. Je dis, mais comment tu sais qu'ils ne prient pas? Il me dit, mais je les vois. Je dis, mais alors toi, tu ne pries pas. Il me dit, mais moi, je ne prie pas pour les regarder qu'ils ne prient pas. Je dis, donc quand il lève la tête, l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tu ne pries pas. Donc lui, il dit, lui, il ne prie pas, pourquoi je vais prier? Il me dit, mais si je ne les regarde pas, ils ne prient pas. Je lui dis, qu'est-ce que t'en sais? Je dis, quand ils vont lever la tête, ils vont voir que tu pries, ils vont prier. Mais comme ils voient que tu ne pries pas, il dit, pourquoi je vais prier? Parce que lui, il ne prie pas. Je dis, mais il faudrait que j'ai confiance. En lui ou en toi? T'as compris? En lui ou en toi? Moi je te dis, t'as pas confiance en lui parce que t'as pas confiance en toi. Parce que toi aussi, peut-être tu sais même pas si tu pries. Alors prie et arrête de nous saouler avec tes enfants. Parce que l'enfant c'est qu'un miroir. Ah, ou d'autres colos. Comprenez ou non? Eh, ma femme elle a un caractère comme ça, un caractère. T'as déjà vu une femme qui est épanouie, qui est heureuse? Parce que son mari lui donne tout et qu'elle est mission 9, ça existe pas. T'as déjà vu un mari, qu'une femme elle est attentionnée, qu'elle est intelligente, qu'elle est fine, qu'elle est sympathique, qu'elle est positive et que son mari n'est pas content? Je vais trop vite. Comprenez ce que je dis ou non? Une fois il y a un avraire. Écoutez cette histoire incroyable. Un avraire, c'est ce que c'est un avraire? Quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. C'était à Bnei Brak, c'est une ville religieuse, c'est loin de Ashkelon, ouais. Et il a été voir le Rav Shach, Zichron Ibracha. Il lui a dit, écoutez Rav Shach, j'ai un problème avec ma femme, elle est pas sniout. Maintenant, quand ça veut dire elle est pas sniout, ça veut dire elle ouvre un bouton. On parle pas d'un étalage de charcuterie ou un dos nu à l'envers. Non, on parle, elle a ouvert un bouton. Alors le Rav lui a dit, écoute, assis-toi avec elle, prends un livre sur la sniout, explique-lui qu'est-ce que c'est la sniout. Il me dit, j'ai fait, je l'ai déjà expliqué un million de fois, ça sert à rien, elle n'est pas sniout. Bon. Il y a là un problème avec la Tzniout. Alors le Rav, il a dit, c'est pas possible, c'est marqué Ishak Kshera Rosa Retson Ba'ala. Comme ça, c'est marqué dans le Rambam, c'est marqué partout. Ishak Kshera, une femme Kshera, une femme bien, elle fait la volonté de son mari. Alors le Rav, il a dit, donc ça prouve qu'elle n'est pas Kshera. Il fait, non, il dit, ça prouve que ton Ratson n'est pas clair. Il dit, est-ce que toi tu regardes des femmes dehors? Il me dit, bah justement, comme elle est pas Tzniout, et ben ça m'arrive d'avoir des tendances à regarder. Donc toi maintenant toi tu n'es pas clair. Ratson Ba'ala, il n'est pas clair. Comment Ishak Shera elle va faire Ratson Ba'ala si Ratson Ba'ala il n'est pas clair? Comment les enfants ils vont faire Ratson Avi M si le Avi il n'est pas clair? Comment ils vont faire Ratson de la mère si la mère elle n'est pas claire? Maintenant la mère elle dit aux enfants la Tzniout et elle met une fente genre servez-vous. Elle met une jupe quand elle s'assoit. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Elle met un pull qui est tellement collant, tu peux lire la marque du soutien-gorge. Elle te dit c'est Tzniout. Où est le problème? Faut pas exagérer. C'est comme tu veux, mais ne viens pas chez moi. Parce que l'enfant, si toi tu es cohérent avec tes incohérences, l'enfant il est incohérent avec ses cohérences. Donc lui il va dire moi je sors avec des mecs moi. Mais enfin, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, Rasbé Shalom, Prétrifka, séminaire, Marseille, Getsé, Dahbaba. Elle dit, j'en ai rien à. Pourquoi? Parce que toi, tu te mens que tu penses que tu es Tzniout. Mais elle se ment pas, elle est émette. Elle dit, moi, c'est pas la peine, moi, tous ces trucs-là, c'est mensonge, je sais pas. Moi, je sors avec des mecs et c'est clair et c'est tout. D'où elle a sorti Stralwed. Parce que t'es pas net. Sois net. Tzniout, Tzniout. Kacher, kacher. Kacher ici, mais dehors, non. Il y a des gens comme ça. On mange à la maison, on mange kachir. Mais dehors, c'est trop compliqué. On mange pas kachir. Je comprends pas, t'as deux estomacs. T'as deux bouches. Comment tu fais, tu? Comment ils font les gens? Ah, il faut pas exagérer. Il m'a dit, écoutez, là, c'est. Il m'a dit, je suis pas au niveau. Moi, je savais pas que pour manger cachère, il fallait monter un escalier. Ou tu manges cachère, ou tu manges pas cachère. C'est facile. Ne dis pas, je mange cachère. Dis, je mange pas cachère. Oh non, hazé shalom. Donc je mange cachère. Alors mange cachère partout. Ah non, je peux pas manger cachère partout. C'est compliqué. On a des clients d'égoïmes. On peut pas leur donner à manger cachère. Et le vin cachère, il n'a pas le même goût. Il n'est pas bon. Le camembert cachère, il n'est pas bon. Ah, il m'a dit une fois. Il m'a dit, monsieur, c'est dans une épicerie cachère. Le type, je le vois. Il achète du fromage et de la charcuterie. Alors je le vois, je parle au vendeur, je dis bah c'est bien, les gens ils achètent du cachet. Il me dit lui, tu viens ici. Alors monsieur, je sais pas quoi, pourquoi vous achetez le fromage? Il me dit ah ce fromage là, quand on le fait fondre sur la charcuterie. Jana, vous avez compris ou non? Maintenant le type il dit c'est cachet, c'est du fromage cachet, chamour. C'est de la charcuterie cachère, mais le mélange des deux, c'est un ta'am de guinam de Maïkan Shalo. C'est comme ça la vie. Donc il y a un moment ou un autre, tu dois savoir qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses. Tu dis, mais je suis troublé, j'arrive pas. Mais regarde dans le miroir. Si tu as une vie de taboula, tu comprends rien ce qui t'arrive, les enfants, l'embrouille, la femme, les amis, là, tu vois rien. Tu dis, mais c'est pas normal, l'image elle doit être nette. Je comprends pas, les gens ils ont des téléviseurs maintenant avec une netteté. Maintenant, plus la télé est nette, plus la vie est floue. C'est incroyable, t'aimes ta femme, tes enfants, où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, ils sont dans la chambre avec son copain depuis tout à l'heure. On entend du bruit, bon, bon, bon. Je dis, mais va voir, écoute, j'ai honte, écoute, on a un copain, c'est son copain, c'est normal. Frédéric, très connu, un Congolais, d'accord? Il vient chez moi, il me dit, monsieur le Menchetrit, je vois que vous êtes beaucoup impliqué dans la communauté, mais êtes-vous sensible à ce qui se passe dans la souffrance du peuple tchétchène? Je dis, toi, tu tombes bien, mon frère. Parce que ta fille, tout à l'heure, elle est venue me demander, est-ce qu'elle a le droit de prendre la pilule, puisqu'elle sort justement avec un Congolais qui a des besoins réels. Alors la Tchétchénie, elle se passe dans la chambre du fond, là. Je te conseille d'aller vérifier là-bas ce qui se passe, au lieu de me demander, moi, pourquoi moi je ne suis pas sensible à ce qui se passe en Tchétchénie. Sinon, c'est toi qui vas chanter « Tchétchénie » bientôt, ouais. Non, j'ai dit, bon, j'exagère un peu, mais pas beaucoup. Hein. Non, pour les perruques, j'exagère, mais pour les autres, j'exagère pas. Hein. Et même des fois, les perruques. Hein. Moi, j'ai des gens hein, qui sont... Moi, je parle aux jeunes. Ils viennent me voir. J'entends des choses. Des fois, j'ai la perruque qui se dresse. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est simple. L'idée, c'est très simple. L'idée, encore une fois, c'est que Hachem nous pose des questions. Et nous, on répond aux questions. La vie nous renvoie quelque chose. Maintenant, le lien émet qu'on entretient avec le miroir s'appelle l'Emouna. C'est ça, l'Emouna. C'est pour ça que, si vous remarquez bien, le Aleph, que c'est le Aleph?
Il n'y a pas Aleph ici.
Où il est? Vous voyez le Aleph ou non? Le Aleph, vous connaissez le Aleph? Regardez le Aleph, il est bizarre. Comment il s'écrit le Aleph? Il dit le Zohar. C'est un Vav avec deux Yud. Un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. L'Yud et Yud, ça fait 20. Plus 6, ça fait 26. C'est quoi Aleph? C'est la première lettre, avant le Bet. La première lettre, la Torah, elle commence par un Bet, Bereshit. Et là, il dit le Zohar. Qu'est-ce qu'il y avait avant Bereshit? Aleph. C'est qui Aleph? C'est Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est lui qui est Mehavé Bereshit. C'est bon? Maintenant, si vous regardez, pourquoi il y a un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers? Moi, si franchement, si j'avais écrit la Torah, j'aurais écrit deux Yud à l'endroit. Qu'est-ce qui aurait changé? Vous auriez, ça aurait changé quelque chose? Le Aleph, c'est qu'il y avait qu'un Vav et deux Yud à l'endroit. Hein? Vous connaissez quelque chose, vous, où il y a deux choses l'une en face de l'autre et une à l'inverse de l'autre? Le miroir. Super. Vous savez ce que c'est le Yud? C'est la Chorma. D'accord? La Chorma. Donc d'un côté, le Vav, c'est le miroir de la réalité. Le Yud d'un côté, c'est la Chorma d'Hachem. L'autre côté, c'est la Chorma d'Hachem qui passe par l'homme. Mais elle est à l'envers, il faut la remettre à l'endroit. Les deux, ça fait Yud Kevavke. Maintenant, Hachem, il est Mehavé et Taolam, et l'homme, dans sa sphère à lui, il est Mehavé et Hachem. Oui, c'est marqué dans le Ramban, sur Eke Asher Eke. Là-bas, il dit, c'est quoi Eke Asher Eke? Il m'a dit, Imata Ove Imi, Anio Ove Itra. Je sais que c'est un peu compliqué pour les autres, mais c'est pas grave, c'est pour eux. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est juste pour vous dire que quand je vous parle de miroir, c'est pas que j'ai choisi un exemple au hasard. Je trouve ça joli, tu sais, c'est à l'envers, à l'endroit. Tu sais que c'est quand même mignon. Tu vas au fond du Zohar, Baba, regarde ce qu'il y a marqué. On n'a rien fait, je vous ai rien dit. Moi, je vais pas inventer Hazé Shalom un truc de matin. Genre, je me suis levé un matin, je dis, tiens, j'ai trouvé un nouveau truc, je vais les épater. Quand je vais aller au Gingdam, moi, parce que j'ai dit un faux chat dans trois cassettes. Je suis pas fou, non? J'ai peur. Ça, je l'ai dit à Bnei Brak. Devant 1200 personnes, il y avait une tablée de rabbanim, j'ai dit ce que je dis maintenant, je ne prends pas la responsabilité, ça n'engage que moi. Ils sont venus me voir pour me serrer la main. C'est des gens qui connaissent tout le chat. Parce que quand j'étais en terminale, eux, ils étaient raves. Imagine maintenant, ça fait 30 ans. Maintenant, où ils sont maintenant? Vous avez compris ou non? C'est pas pour dire maintenant pour qui ils se prennent. C'est pour dire qu'on essaie de vous donner des choses de valeur. Parce que je pense que vous êtes des gens de valeur. Des gens de valeur, ils doivent entendre des choses de valeur. Maintenant, des fois, des gens ont des choses de valeur et des gens de valeur, ils doivent se mettre à la hauteur de leur valeur. Imaginez quelqu'un, il a un diamant 19 carats. Un beau. C'est une marque connue à Place Vendôme, ça s'appelle Taboz. Ouais. Il a un beau diamant 19 carats. Il vient de manger un tagine de mouton. Ça va? Et il a de la viande dans les dents comme ça. Il n'a pas de cure-dent, mais il a le diamant. Et personne ne le voit, il est seul. Il peut le prendre ou non? Ça s'essuie un diamant. C'est un diamant carré, vous savez, rectangulaire comme ça. Un beau Taboz. Il va prendre le diamant de 19 carats. Vite fait comme ça. Après, il l'essuie. Impeccable, il le remet dans le présentoir. 196 000 euros. Wow, le cure-dent le plus cher du monde. Moi, je dis, quand le garçon il vient avec la fille. Elle me dit, mais monsieur le rabbin, vous savez, on n'est pas religieux, on n'arrive pas à se retenir, c'est trop difficile. Vous nous demandez de ne pas se toucher, de ne pas faire des bêtises, mais je ne peux pas. Je dis, écoute, cette fille, c'est un diamant. Il m'a dit, oui, je fais ses peintures, non? Donc, pour tes besoins personnels, humains, pour ne pas dire bestial, d'animal à deux pattes, il faudrait que tu te retiennes. Sinon, tu es en train de prendre un diamant pour un cure-dent. D'accord. Tu viens me dire, ouais, mais c'est normal, c'est les jeunes et tout ça. Je dis, mais toi, tu es un diamant. Tu n'es pas un cure-dent. Donc devant le Satan, devant l'Yetzara, devant le Shabbat, devant la Kashrout, qu'est-ce que tu fais? Hachem, il t'a donné une Neshama et toi tu t'en sers comme un cure-dent. Après, genre ton psy, il va t'aider à comprendre les conflits intérieurs de ta souffrance depuis que ta mère t'a dit que t'étais bête. Je crois que c'est ça. Tu penses pas aux dérèglements qui viennent de plus haut, que le diamant il t'envoie des ondes négatives parce que t'es pas en accord avec ta réalité juive? Ce serait plus simple. Moi, j'ai soigné des psychiatres. Pourtant, j'ai jamais fait d'études de psychologie. Hein. Donc, c'est quoi l'idée, Rabotai? L'idée, c'est énorme. C'est que Yaakov Avinu, s'il faudrait que quand même, je commence à entamer le thème, d'accord, c'est que... Non, je rigole, j'en ai pour 5 minutes. L'idée, c'est quoi? On a dit que Yaakov, il n'a pas été capable de voir le positif. Il a eu peur, parce qu'il n'a pas été capable de voir le futur, il a vu que le présent. Maintenant, le présent était complètement déstabilisant, puisqu'il a vu la tunique ensanglantée de son fils, d'accord? Maintenant, ça, c'est comme si quelqu'un, il arrive à Auschwitz maintenant. Il va imaginer qu'il va créer une yeshiva dans 20 ans. Il rentre dans Auschwitz maintenant. Ouais. Celui-là, il voit demain matin condamné à mort par fusillade. Donc maintenant, le degré de impossibilité, il dépend du degré de Emouna. Nous, on ne met pas dans des situations impossibles. Parce qu'on n'a pas la Emouna pour assumer l'impossible. Donc nous, on nous envoie dans du possible, que déjà on a du mal à assumer. Déjà, quand il y a un choix sur deux, on dit c'est trop. Un choix sur quatre, on dit c'est du stress. Un choix sur six, on dit qu'on nous oblige. Mais c'est ça la vie. Donc maintenant, Yaakov Avinu, il a un tel niveau que lui, on met la tunique ensanglantée de son fils et lui, il doit dire, il n'y a rien du tout. J'ai pas vu le cadavre. Mon fils, il est vivant et Hachem, il est en train de le rendre roi. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Oui, il n'a pas fait. Hachem lui reproche ça. Il dit, où est cette force? Au pire du négatif, de voir le positif. Alors, on a dit, Gamzou Letova. C'est ça, Gamzou Letova. C'est quoi, Gamzou Letova? Même ça, c'est pour le bien. Gam, zoul et tova. Maintenant, nous, on croit, c'est pourri, c'est difficile, c'est dur, je vais mourir, mais c'est pour mon bien. C'est une religion très proche du judaïsme qui s'appelle le masochisme, d'accord? Ça n'a rien à voir. Gam, zoul et tova, ça veut dire, je dois comprendre que même ça, c'est bien. Même ça, c'est bien. C'est pas que c'est mal, mais c'est pour le bien, c'est bien. Maintenant, qui c'est qui a dit ça? Le maître de Rabbi Akiva. Maintenant, Rabbi Akiva, vous savez qui c'était. Rabbi Akiva, c'est le deuxième Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a sauvé la Torah du Ham Israël. C'est lui qui a sauvé Ham Israël. D'accord? Où il était, lui, au moment de la perte du Beth Amikdash? Tout le monde connaît les deux maasim extraordinaires. Le Rabbi Akiva, il est devant le temple du Beth Amikdash en ruine. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des renards qui vont dans le Kodesh HaKodashim. Tous les chachamim qui étaient là-bas, ils sont mis à pleurer. Et lui, il est en train de sourire. Il lui a dit, comment Rabbi Akiva, tu souris? Alors que les renards, ils sont dans le Beth Amikdash. Il a dit, comme cette prophétie, elle s'est accompli, que c'était marqué déjà depuis longtemps qu'un jour le Beth Amikdash sera détruit, il y aura des renards qui vont rentrer dans le Kodesh HaKodashim. De la même manière que cette prophétie, elle s'est accomplie, il y a une autre prophétie, que Mashiach, il va construire le troisième temple, il va s'accomplir aussi. Ça va? Maintenant, pourquoi lui, il a vu ça, les autres, ils ont vu le contraire? C'est Rabbi Akiva, d'accord? Maintenant, qui c'est qui a dit dans la Mishnah, Ashrechem Israël, mi metaher etrem, ou lefnimi atem metaherim? La Mishnah dans Yoma. La Mishnah de Yom Kippur. Ouais? C'est qui c'est? C'est Rabbi Akiva. Maintenant, il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a plus le Kohen Gadol, il n'y a pas le Seder de l'Avoda du Yom Kippur, il reste que la Teshuvah, il n'y a plus de Korbanot, il n'y a plus rien. Et lui, il vient, il dit, Ashrechem Israël, Ashrechem, soyez heureux Israël, Lifnemi Atem Mitaerim, devant qui vous purifiez, ou Mi Metaer Etrem, et qui vous purifie, Avichem Sheba Shamaim, Hashem. Dis-moi, comment quelqu'un, il va trouver la force, alors que tout est détruit, de revoir le positif? C'est Rabbi Akiva. Maintenant, pourquoi Rabbi Akiva? Parce que son rave, c'était Ishgamzu. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire qu'Hachem, il savait qu'il allait arriver une catastrophe. Que dans cette catastrophe, les Bnei Israël, ils allaient plonger au plus profond du désespoir. Mima Amakim. Ouais. Maintenant, au fond du désespoir, qui c'est qu'il allait leur redonner la force? Quelqu'un qui lui-même contient cette force. Maintenant, tu ne peux pas propager une chose que tu ne contiens pas. Je vous donne le secret. On ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est très important chez nous. Oui, les gens y croient, j'ai appris des connaissances et maintenant je les transmets. Tu prends des connaissances, tu absorbes des connaissances, tu deviens les connaissances et ensuite tu les transmets. L'Agma a dit dans Kiddushin, un rav chez Mahalal Kevodo, Kevodo Mahul. Un rav qui fait pas attention à son kavod il est exempté. On n'est pas obligé de se lever, s'il n'est pas makpid, on ne se lève pas. Ah pourquoi? L'Agma a dit, mais comment? C'est pas son kavod à lui, c'est le kavod de la Torah. Comment il peut être mohal sur le kavod de la Torah? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Elle disait Torah d'Ilé. C'est ta Torah à lui. Vous comprenez ou non? Tu prends la Gemara, tu l'avales. Tu l'absorbes, tu la digères. Tu fais le shiur, c'est ta Torah à toi. Donc lui, il peut être mochel sur le kavod de sa Torah à lui. Incroyable, non? Oui. Il dit maintenant, c'est quoi cette idée? Cette idée, c'est que quelqu'un, il arrive à voir le positif dans la situation la pire. Maintenant, cette capacité de voir le positif, c'est pas seulement un angle de vue, c'est une dynamique de la vie. C'est ça que je voulais vous faire comprendre à travers ce cours. C'est qu'en fait, c'est ça sourire à la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand maintenant, on ne parle pas maintenant que quelqu'un il fait la méthode Coué, tout va bien, je suis heureux, c'est bien. Non, 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 non. C'est une dynamique. Maintenant, celui qui est dans la dynamique, il n'a pas de problème. On dit, mais Vakesh Hachem, celui qui cherche Hachem, il ne va pas fauter. Les gens, ils viennent me voir. Voilà, la semaine dernière, j'étais à Toulouse. Un type, il vient, il me dit, voilà, je voudrais vous parler. Écoutez, voilà, j'ai des problèmes de couple. Je dis, écoute, mon frère, j'ai passé Shabbat. J'ai fait court matin et soir. Je suis épuisé, je suis jeté. Il est 10 heures du soir. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que j'entame avec toi un couple? Un couple, c'est 5 heures. J'ai pas la force. Il m'a dit, mais Rav, je vous en prie, on va divorcer. J'ai 3 ans de mariage, un enfant. J'avais de la peine. Je dis, bon, écoute, je vais te poser une question. Et essaye de me répondre. Je fais ton couple, il est dynamique ou il est passif? Il n'a pas compris. Je dis, t'es dynamique dans ton couple ou t'es passif? Si t'es dynamique et qu'il est en construction, il n'y a pas de problème. Si t'es passif, les problèmes se cumulent, puisqu'il y a un espace pour les créer, ça s'appelle la passivité. Vous comprenez ou non? On cherche à construire, on cherche à se comprendre, on cherche à se rapprocher, on cherche à se faire plaisir, on cherche à évoluer, on cherche à vivre des choses ensemble, avoir des choses en commun, comme on est en train de chercher Mevakesh Hashem Loicheta. T'es Mevakesh Hashem. L'autre, il commence à se demander, le limoud, c'est important, c'est pas important, est-ce que je dois rester à l'Eshiva, pas à l'Eshiva? D'abord, tu learnes pas. Comme tu learnes pas, t'as pas de fruits. Comme t'as pas de fruits, t'as pas de Simchat Chaim. Comme t'as pas de Simchat Chaim, tu t'ennuies. Comme tu t'ennuies, tu penses à des choses. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est évident. Oui? C'est quoi la force? C'est d'anticiper sur le vide que la vie va te proposer. Maintenant, si c'est plein, c'est plein. Regardez même à Mavdil, les toilettes. Ouais? L'autre, il veut rentrer aux toilettes et toi, t'es dedans. Qu'est-ce que tu réponds? C'est occupé. Donc quand le Satan il vient pour faire le balagan dans votre couple, pourquoi vous ne dites pas excusez-nous, on est occupé à être heureux, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps à s'occuper. Déjà, ils n'arrivent pas. D'abord, ils s'engueulent, après ils s'insultent, après ils se maudissent, après ils s'envoient des lettres d'avocat, après ils réfléchissent, après ils parlent, après ils disent, tu sais chérie, on peut trouver des solutions. Alors pourquoi ils font jra? Pourquoi ils ne commencent pas par les solutions? Puisqu'on sait qu'un jour ou l'autre, on va être obligé d'être intelligent, alors on n'a qu'à être intelligent quand on n'est pas encore obligé. Oui ou non? Pareil, les gens me disent, oh la teshuva, la religion, c'est de la très la religion. Un jour, alors, allez-nous, ils ont un problème. Alors leur avis dit, prenez sur vous quelque chose. Après toute la famille, après il prend sur lui, il écoute les cours, après il prend les téfilines, après il prend la cache-côte, il prend les lidas. Pourquoi? Pour enlever le cancer de son fils. Je dis, pourquoi il a attendu le cancer? Pourquoi il fait des films à l'envers? T'es juif! Je vous raconte une histoire, elle est incroyable. Un jour, j'étais à la Martinique. Vous savez, c'est un endroit très, très éloigné du froid. Ouais. Et j'ai donné un cours. Et là, après, j'ai mangé dans un repas avec deux couples. Maintenant, le couple qui m'a invité, l'autre couple, j'ai pas fait attention. Un an après, quelques mois après, j'arrive. J'étais à Paris, un type, il me téléphone, il me dit, ah, je vous appelle en catastrophe, voilà. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me voit appeler, on a mangé ensemble à la Martinique, j'ai oublié. Il me dit, ma femme, elle était enceinte et tout ça. J'ai dit, écoutez, j'ai oublié. J'excuse, je regarde pas les femmes, j'ai pas fait gaffe de voir une femme dans ma tête. Genre, je vais me rappeler que une femme enceinte, elle était avec moi à table à Martinique. Maintenant, moi, je vois à peu près 20 000 personnes par an. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, elle est venue pour voir sa famille. Elle a fait un accident de la route. Alors, allez-nous, elle est dans le coma. Elle a un œdème de sang dans le cerveau qui est gros comme une orange. Les médecins, ils ont dit, elle va mourir aujourd'hui. Je suis sûr, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je suis ni chirurgien, ni neurochirurgien. Il m'a dit, grave, je ne sais plus vers qui me tourner. Je vous connais, je vous demande, vous voulez prier? Je dis, bon, on va prier, donne-moi le nom. Après, je dis, écoute, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre sur toi d'allumer des veilleuses de Rabbi Meir Balanes. Tu fais de la Zdaka pour Rabbi Meir. Bah, je dis, maintenant, si tu veux, toi et ta femme, vous êtes dans le même mazal. Ishto Kegoufo. Maintenant, il y a une balance. D'un côté, il y a l'oxardine du coma et de la mort. D'autre côté, il y a toi. Alors, je lui dis, prends une mitzvah sur toi. Comme ça, parce que la xéra, elle vient de la mitzvah. Tu changes la situation, tu changes la xéra. J'ai rien dit. J'ai pas dit ni qu'il y ait une mitzvah, ni rien. En général, je lui dis, prends tes petites katanes une fois par semaine. Fais deux teilim par jour. Mais là, c'était tellement grave, j'ai rien dit. Parce que là, si je vais lui dire, ah, vous faites du chantage émotionnel. Je dis rien. Quand il a... Écoutez bien maintenant, on est mercredi. Il m'appelle jeudi, il m'a dit, écoutez Raph, c'est incroyable. Il m'a dit, ma femme, parce que le médecin, il a dit, elle va mourir. Il dit, elle n'est pas morte. Je dis, bon. Il m'appelle samedi soir, il me dit, l'œdème a fondu. Oh, comme si c'était une glace. Après, il m'appelle dimanche matin, il m'a dit, écoutez, après que l'œdème a fondu, ils ont dit, écoutez, elle va rester handicapée toute sa vie, dans le coma. Il m'a dit, elle a ouvert les yeux dimanche. Il m'a dit, bon, elle ne pourra plus marcher. Lundi, elle est sortie de l'hôpital. Écoutez bien cette histoire parce qu'elle est incroyable. Il me rappelle, des fois, il ne rappelle pas les gens. Quand tout va mieux, ils n'appellent plus. Quand ça ne va pas, ils appellent. Quand... Grave, je voulais vous remercier. Je dis, tu me remercies de rien, j'ai rien fait, moi. Il m'a dit, non, mais je voulais vous dire et tout ça, je le dis qu'à vous. Voilà, quand j'ai rencontré ma femme, il y a 4 ans, elle m'a dit, je t'en prie, moi, je suis chômeur et Shabbat, pourquoi tu n'es pas chômeur Shabbat et tout ça. Et moi, je lui ai dit, allez, elle m'a tellement saoulé, je lui ai dit, allez, après le mariage. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on est mariés, je ne suis pas encore chômeur Shabbat. Et je voulais pas être chômeur Shabbat. Je dis alors, quand il y a eu l'accident, vous m'avez dit, prends une mitzvah sur toi. Dès que vous m'avez dit ça, j'ai pensé à une seule chose. J'ai pensé Shabbat. Parce que ma femme, elle avait à cœur le Shabbat. J'ai pris Shabbat. Je dis, moi, je te dis franchement, selon la gravité, il faut prendre quelque chose de grave. Le Shabbat, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est une situation. Moi, normalement, je dis aux gens directement Shabbat. Mais là, j'ai pas osé. Parce que les types, encore une fois, quand ils sont sensibles, les gens, ouais, tu me fais du chantage, tu profites que ma femme, elle est malade pour me demander des choses. Non, j'ai rien demandé. Maintenant, lui, de lui-même, il a compris Shabbat. Ça va? Il m'a dit, j'ai pris le Shabbat le mercredi soir. Vous vous rendez compte? Le Shabbat, le dem, il a fondu. Le lundi, elle est sortie du coma. Le dimanche, le lundi, elle s'est mise à marcher alors qu'il avait condamné, handicapé à vie. Bon, Hachem, le bébé, il est né en bonne santé. Tout le monde va très bien. Mais il m'a dit merci, il a raccroché. Et moi, dans ma tête, vous savez à quoi j'ai pensé? Mais c'est dur. Hein. Vous êtes prêts ou non? Vous avez confiance en moi, je ne suis pas un type méchant. Oui? Mais c'est très dur. Vous êtes prêts? C'est très, très dur. Ça va? Comprenez ce que je dis ou non? Ça, je vous ai donné assez d'amour pour que vous compreniez que je ne suis pas venu pour vous angoisser. Ça, vous arrivez à comprendre ça ou non? Sinon, vous allez mal le prendre. Vous êtes prêts à le prendre bien? Moi, lui, quand il m'a dit ça, c'est ce que j'ai pensé, moi. Lui, il m'a dit, quand vous m'avez dit ça, moi, j'ai pensé à faire Shabbat. Et moi, c'est ce que j'ai pensé, moi. Je ne lui ai pas dit. J'ai pensé que sa femme, elle voulait tellement qu'il fasse Shabbat. Elle était prête à faire un accident de la route, à avoir un œdème dans le cerveau, risquer d'être handicapée pour que son mari fasse Shabbat. Elle était prête. C'était ça sa réalité à elle. Elle était prête. Et c'est ça qui est arrivé. Je vous ai dit que c'est dur. Non, c'est pas du délire. Non, je vous dis, regardez, je vais vous raconter. Non, vous ne croyez pas, vous. Non, vous ne savez pas de quoi quelqu'un. Moi, je connais une dame. Écoutez bien, cette dame, quand sa fille, elle a attrapé une hémorragie interne à l'accouchement, elle a dit, c'est pas ma fille qui doit mourir, c'est moi. Et c'est elle qui est morte. Le lendemain, elle est morte. Elle n'avait rien. Son mari à elle, il a dit, moi, je ne peux pas rester sans ma femme, je reste pour le Kaddish. Un an après, à la fin du Kaddish, il est mort. Vous croyez que les gens, avec leur cerveau, ils peuvent rien faire? Et quand quelqu'un, il voit qu'il a un dépôt de bilan au magasin et qu'il fait une crise cardiaque, vous savez que le cœur ne réfléchit pas. Donc, qui c'est qui a arrêté le cœur? C'est le cerveau. Qui c'est qui a dit au cœur, arrête-toi? C'est le cerveau. Donc, le cerveau, il a dit au cœur, arrête-toi. Vous savez pas ce qu'un homme peut faire avec son cerveau. Vous pouvez pas, ça va pas imaginer. Donc, c'est pas pour vous faire peur. C'est juste pour vous dire que ce qu'on peut faire dans le négatif, on peut faire dans le positif. Comprenez ou non? C'est-à-dire que toi, tu recrées l'espoir. Toi, tu penses à sauver ton couple. Toi, tu mets de l'énergie négative. Malgré que tu sais que t'as un mauvais caractère, tu fais des efforts pour être gentil. Malgré que tu sais que t'as pas d'espoir, tu luttes. Même si tu restes 2%, moi j'ai eu des gens comme ça, ils sont en dépression suicidaire, il leur reste 2% d'espoir. Je lui ai dit, on va prendre les 2% et on va reconstruire. Il m'a dit, écoutez, 2% ça sert à rien. Même mon médecin, il m'a dit, achetez un tabouret. Je fais, non, ouais. Deux médecins, 2% et on reconstruit. Ram Israël, ils sont 0,02% de la population mondiale. Sur 6 milliards d'habitants, 2 milliards et demi qui travaillent toute la journée pour les détruire, des bombes, des complots, des textes à l'ONU, toute la journée. 2 milliards et demi, et 3 milliards et demi que ça ne dérangerait pas si on disparaissait. Ça fait 6 milliards. Ambiance tendue. Baruch Hashem, on est là, ailleurs. Ouais. Pourquoi aller ailleurs, puisqu'on est là, d'accord? Et on est en train de faire un cours de livret Torah, alors qu'on a des nazis musulmans à 18 mètres qui sont en train de calculer comment il va mettre la bombe et comment il va faire la truc et comment au conseil général il va dire qu'il faut mettre un drapeau palestinien pour que les gens ils se désengagent d'Israël et comment il va mettre des étiquettes sur les jus d'orange israéliens. Ils pensent qu'à ça toute la journée, comme des débs, et nous on est là, en train de faire un livret Torah. Comprenez ou non? C'est ça que la Gemara elle a dit, il y a un Romain, il a dit, un Rav, il a dit bravo pour ce mouton qui se débat au milieu des 70 loups, les 70 peuples, et le mouton c'est Ram Israël. Le Rav il a dit bravo pour ce berger qui s'occupe du mouton. Donc c'est pareil. Maintenant dans la vie, tu peux regarder les loups, tu peux regarder le berger. Chez ta femme, tu peux regarder le côté positif et tu peux regarder le négatif. Dans ta maladie, tu peux dire je suis malade, ou tu peux dire Hachem m'a donné ce qu'il m'a donné. Ouais, chez un enfant, tu peux dire j'ai perdu une grande neshama, ou tu peux dire grâce à Dieu, Dieu me l'a donné pendant 28 ans, 19 mois et 6 jours. Tu peux faire ça. Chacun, il peut regarder la vie comme il veut. Maintenant, tu peux dire je vais le voir en noir et croire je creuse la tombe, ça veut dire lui il est mort et moi je me mets à côté. Ou tu peux dire non, le bon Dieu il a pensé que cette vie-là elle s'arrête là et qu'il y en a une autre qui continue et c'est comme ça. Et je vais avancer. Donc est-ce que je vais choisir de voir le côté positif ou est-ce que je vais choisir le côté négatif? Mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas encore une fois une notion intellectuelle. C'est pas genre vous avez compris. Ah j'ai compris. Donc ça veut dire les kafzou khout, il faut voir le positif. Non. Gamzuletova. Non. Le positif, le regard positif, le sourire, c'est quoi? C'est une attitude. Ça veut dire que quand moi je regarde ma réalité positivement, ça veut dire que je suis actif dans ma réalité, elle devient positive parce que je suis actif dedans. Mais dans mon passé, je peux le cachériser mon passé. C'est marqué à Aosé Tchouva Miahava, oui, Zdonot Naaselot Isruyot. Celui qui fait Tchouva par amour, c'est Averot, qu'il a fait volontairement, il devient des mérites. Il dit, mais enfin, ça ne peut pas devenir des mitzvot. Écoutez, monsieur le rabbin, écoutez, j'étais en boîte de nuit, je fais toutes les bêtises du monde. Vous allez me dire que c'est compté comme si j'ai mis les téfilines. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est le Rav Dessler qui explique. Il dit, quand quelqu'un, il se rend compte du niveau de pourriture dans lequel il était, et que malgré cela, Hachem a été le chercher pour l'aider à faire teshuvah. Donc la conscience de la gravité de ce qu'il a fait lui a donné la conscience de ce que la bonté qu'Hachem lui a fait. Donc son degré de Hakaratatov, il va être conditionné par son degré de nullité dans lequel il était. Ça va? Or là, Hakaratatov, c'est la racine de l'amour, parce qu'on ne peut aimer que quelqu'un chez qui on reconnaît le bien. Donc quelqu'un qui fait teshuvah par amour, c'est parce qu'il reconnaît le bien que Dieu lui a donné d'aller le chercher dans un endroit si bas. Donc la conscience qu'il avait de l'endroit qu'il était si bas, c'est ce qui lui a augmenté proportionnellement sa capacité à aimer Dieu par reconnaissance. Donc c'est parce qu'il était bas qu'il est monté haut. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller bas pour monter haut. Parce que les gens disent, alors le Rav Metchetrit, il a dit, tu fais toute la véro du monde, après tu fais de la grande teshuva. Mais attention que le bon Dieu ne débranche pas la prise juste avant. Il a de l'humour, hein, mais il faut apprécier. D'accord? Donc tu vois que même ton passé, ouais, si tu le regardes positivement, il devient générateur de positif. C'est comme le traitement des déchets. Même les déchets, on peut faire de l'énergie avec. Ouais? Comme les gens, ils ont honte de leur couple. Ils disent, vous savez, on a fait beaucoup d'erreurs. Je dis, mais c'est tes erreurs, ils t'ont amené aujourd'hui à la prise de conscience. Donc les marches d'escalier, des fois, il y a de la boue dessus. Mais c'est quand même ça qui t'a amené au quatrième étage. Donc ne crache pas sur ton passé, parce que c'est lui qui t'a créé ton présent. Ça va? Voilà. Mais de la même manière, tu peux voir ton avenir. Tu peux sourire à l'avenir. Pourquoi tu vas faire la tronche? Vous savez, la conjoncture est très dure, vous ne vous rendez pas compte. Moi, j'ai un ami à moi, il a une société de bourse. En 2008, donc en 2007, il a été voir un rave, un très grand rave, qui s'appelle Rabbi David Amersera de Naria, le fils de Baba Meir. C'est un très grand sadique. Il lui a dit, écoutez, rave, la conjoncture, elle est très mauvaise en bourse. Et le Rav, un an avant, il lui a dit, en 2008, il va y avoir un crash incroyable. Un an avant, il lui avait dit. Ils sont arrivés en 2008, il lui a dit, voilà Rav, maintenant ça va être le crash. J'ai très peur. Le Rav, il a dit, c'est très simple. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, la conjoncture mondiale est très mauvaise. Mais la conjoncture personnelle n'est pas conditionnée par la conjoncture mondiale. Si toi, tu rentres dans l'angoisse mondiale, tu rentres dans le mazal mondial, tu vas prendre la vague en pleine tête, le tsunami de la bourse, il va t'emmener. Mais si toi, tu gardes ton bitachon, tu continues à faire tes mitzvot, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, qui aide des avrechim, qui aide des familles, et tu continues à faire ce que tu penses, par rapport à ce que tu penses, tu n'es pas touché par la conjoncture mondiale. Non seulement que sa société, elle a traversé la crise, des très grosses, elles ont plongé, les Morgan et les Herbaban, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Mais en plus, que maintenant, des très grosses qui ont baissé, elles sont, après la crise, maintenant, elles lui ont demandé de s'associer avec lui pour travailler avec lui, tellement la sienne, elle a grossi entre temps. Mais c'est quoi le Yesod? Est-ce que tu es soumis à la conjoncture ou tu n'es pas soumis à la conjoncture? Tu dis, mais c'est la réalité! Bien, ouais. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Ouais. C'est comme les gens qui vont voir un film d'horreur. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait le ciné-club. Vous rappelez le ciné-club? Je ne sais pas si vieux que ça, non? Il y avait des films en noir et blanc comme ça. Alors maintenant, on avait le droit de regarder un film une fois de temps en temps. Alors ils étaient là, tous les frères et sœurs, et il y avait le film. Alors, là, 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 là. Alors moi, je m'amusais quand je dis, mais vous êtes des malades. Je dis, mais vous êtes fous. C'est un écran. Donc il y a l'écran, il y a le film, et puis autour il y a le salon, il y a les sfarim, il y a l'ambiance, et on est chez nous à la maison. L'autre il rentre dedans. Ouais. Alors je dis, quelle différence entre quelqu'un qui tripe dans un film et quelqu'un qui tripe dans sa vie? Compris ou non? Non mais tu peux t'arrêter quand tu veux. Tu peux arrêter quand tu veux. Je te dis, l'enfant, il a fait des bêtises. T'es convoqué à l'école. Il a été renvoyé. Il a fait une truc. Toi, tu rentres dans une spirale. T'as le bilan psychologique. T'as le directeur qui te fait. T'as le moré qui te monte une cabala contre le truc. T'as l'ancienne mora qui te... Et toi, tu dis, attends, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il est en train de mon fils que c'est un guilgoul de Hitler ou quoi? Donc, où toi, t'es capable de rentrer à l'intérieur de l'enfant parce que tu le connais et dire, je vais arrêter cette hémorragie et je vais l'aider parce que je vais l'aimer? Ou toi, tu suis le courant, tu dis, bon, c'est vrai, effectivement, c'est, il est condamné, donc moi aussi, je vais l'enfoncer. Après, il va être envoyé. Après, je vais dire, je vais le mettre dans une école à côté de la plaque parce qu'il n'y a personne qui l'accepte. Après, il va me dire, je suis obligé de faire des compromis, le jean, le shit, le scooter. Et après, la Goya. Je dis, mais pourquoi je vais rentrer dans ce trip? Peut-être, moi, je vais me battre avec l'école. Et moi, je vais montrer qu'est-ce que je crois pour mon fils. Et moi, je vais croire. Alors, je dis, ouais, mais c'est un petit peu idéaliste. Mais dans la vie, rabotaille. Les gens qui font des grandes choses, c'est des idéalistes ou des réalistes? Réfléchis bien dans ta tête. Les gens qui font des grandes choses, c'est des idéalistes ou des réalistes? Les réalistes, ils peuvent rien faire. Ils sont écrasés par la réalité. Tu veux un mariage? Tu peux pas. Un enfant, c'est la famille, c'est 1,7. En moyenne, c'est un divorce entre les deux et la sixième année. La retraite, personne sera là pour la payer. Le cancer, si tu l'attrapes pas à cause de la pollution, tu l'attraperas à cause du déodorant. C'est que si tu regardes la réalité, tu dis, faut mourir maintenant. Donc, t'es obligé d'être idéaliste. Et c'est pour ça que le Ham Israël, il existe. Pourquoi toutes les générations ont disparu? Rendez compte, les Crétois, ils ont disparu. Les Macédoniens, c'est énorme. Ils étaient des millions et des millions. Qu'est-ce qui reste, une salade? Les Grecs, 3 pages de philosophie. Ouais. Les Romains, ouais, deux temples. Oulalala. Ouais. Et nous, depuis 3500 ans, on est encore là. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien que les Goïms, ils appellent les Juifs le peuple de l'espoir. Les Goïms, ils appellent les Juifs le peuple de l'espoir. Parce que c'est nous l'espoir du monde, c'est nous. Maintenant, si nous-mêmes qui sommes l'espoir, nous n'avons plus d'espoir. Et c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est de croire en une chose qui se voit pas. Tu vois, quand tu mets les téfilines, c'est un signe d'espoir. Parce que ça n'a rien à voir avec la logique et tu le fais quand même. D'aller au mikvé, c'est un signe d'espoir. De s'habiller sniout en 2011, alors qu'en 3 coups de Facebook, tu peux coucher avec une fille. C'est un signe d'espoir. Tu dis, malgré que la société elle est pourrie, je vais amener des tzadikim dans le monde. C'est ça l'espoir. L'espoir, c'est du concret. C'est pas dans la tête, c'est pas de la politique. Vous savez, nous allons créer un élan d'espoir et avec des forces vives et pour le parler juste. Laisse tomber, tout ça, c'est de l'auteur. Nous, on sait ce que c'est, nous. L'espoir, c'est concret. Chaque acte de mitzvah que tu fais en 2011, c'est un acte d'espoir. C'est pour ça qu'on a été, on a survécu à tout. Parce que notre espoir, il n'est pas basé dans la réalité, il est basé dans le spirituel. Et le spirituel n'est pas soumis à la réalité. Comprenez ou non? C'est-à-dire que quand une femme, elle se couvre la tête, Elle fait le peuple juif, il continue à exister. Quand elle met une jupe longue, elle fait que le peuple juif. Quand un homme, il tourne la tête, il voit une image dégueulasse, il tourne la tête, il fait exister Ham Israël. À la seconde où il le fait. Moi, je vais vous dire un truc. Ma grand-mère, mes deux grand-mères, elles se sont toujours couvertes la tête. J'ai jamais vu les cheveux de mes grand-mères, jamais. C'est en Algérie, c'était pas évident. Bon, Algérie du Sud, quand même, j'étais du Maroc, mais. Comment ils se couvraient la tête? Écoutez bien. Ils avaient un foulard, très serré comme ça. Et dessus, un deuxième foulard. Et c'était pas la perruque. Ah, ça là, ouais. Un foulard serré. Comment ils se lavaient la tête? Écoutez bien. Elle mettait contre le mur. Il n'y avait pas de salle de bain. Contre le mur. Elle ouvre le premier foulard. Elle l'accroche avec des épingles au mur. En dessous, elle enlève le deuxième foulard. Elle se lave la tête avec une bassine. Elle se sèche les cheveux. Elle se coiffe. Elle remet le premier foulard. Elle remet le deuxième foulard. Tu dis, ouais, c'est exagéré. D'abord, Dieu lui a donné des beaux cheveux. Elle peut les montrer. C'est un attrait. D'accord? Et à la maison, on n'est pas obligé de se couvrir la tête. C'est qu'à l'extérieur. C'est vrai. Alors, je te dis un secret. Elle n'a pas dévoilé des choses qui auraient pu être dévoilées. Oui? Et ses enfants, ils ont dévoilé des parties de la Torah qui étaient voilées. T'as compris? C'est-à-dire que la personne, elle investit. Il faut être un peu raha. Il faut arrêter de penser à son petit derrière. Il faut penser loin. Il faut voir loin. C'est des investissements. Moi, quand j'enseigne la Mishnah à mon fils, je pense pas à mon fils, je pense à mon petit-fils. Il faut penser loin. C'est très loin, même arrière, petit-fils. C'est ce qu'il dit le Khatam Sofer dans Sanhedrin Kaf Aleph. Vous savez pas? Je vous le dis pas, ça va vous déprimer. Il dit, celui qui est sûr qu'il enseigne pas à son fils avec amour de la Torah, il vaut mieux pas qu'il enseigne parce qu'il est en train de transmettre le contraire. Qu'il prend un enseignant qui paye plutôt que ça. Parce qu'il lui met la ramba. Après l'autre, il dit, j'ai pas. Parce que lui, déjà, il se force à étudier. Il se force à enseigner. Il s'enseigne en plus à son fils et en plus avec les nerfs, alors qu'il aurait pu voir un bon match à la télé. L'enfant, qu'est-ce qu'il reçoit? Torah de ramba. Déjà qu'il suivait le ramba. D'accord, moi je rigole. Donc c'est quoi? D'accord. Donc ça veut dire que quelqu'un, il doit être capable de comprendre que c'est une chaîne. Il y a la chaîne du passé, le maillon du passé, le maillon du présent et le maillon du futur. Et c'est quoi cette dynamique? C'est d'investir, c'est d'investir. C'est ça, sourire. Comprenez? Non, c'est pas une attitude. Tout va bien, nous sommes heureux. Non, ça, il faut laisser la Jacques traîner. Il n'est même pas arrivé tellement il traîne. D'accord? Non, nous, on parle de quoi? On parle que quelqu'un, il a compris que c'est une attitude active et positive. Qu'à chaque instant, tu rajoutes des briques de positif, des briques de pureté, des briques de kedusha, des briques de... Et c'est ça que tu crées. Donc tu amènes la kedusha dans ta keïla. Eh ben, c'est une keïla de kedusha. Tu mets de la kedusha dans ta famille. Et c'est une famille de kedusha. Comprenez ou non? Moi, les gens, ils viennent à la maison, ils disent, on se sent bien, on est détendu chez vous. Mais c'est normal. Bah, dans la soupière, tu mets ce que tu veux. Tu mets du shalom, de l'amour, de la tendresse, de l'écoute, de la sensibilité, de la finesse. Et eh ben, quand tu rentres, tu trouves ce qu'il y a dans la marmite, c'est toi qui l'as mis. Tu rentres dans des maisons, tu as que les nerfs. T'as envie de mourir. Pourquoi? Des engueulades, des stress, des insultes, des railleries, des moqueries, des méchancetés. C'est la maison. C'est un espace que tu as créé, confiné, fini. D'accord? Donc c'est normal. Donc si on comprend ça, c'est-à-dire que chaque jour, chaque instant, chaque séquence de vie, on peut en faire quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose de pourri. Maintenant les gens y croient, et là c'est très grave, les gens y croient que quand ils peuvent justifier le fait qu'ils l'ont rendu pourri, c'est normal que ce soit pourri. Je ne sais pas si vous me suivez. Par exemple, ça c'est un des paradoxes de la psychiatrie infantile. Il y a des gens qui croient qu'ils ont le droit de s'énerver quand on les énerve. C'est une erreur. Les gens disent, pourquoi je m'énerve? Parce qu'elle m'énerve. Ah, si je suis énervé, monsieur Larmin, c'est qu'elle m'énerve. Il n'y a pas de fumée, sans feu. Je dis, mais la fumée, elle est là, le feu, il est là, c'est pas normal. Le feu, il est là, la fumée, il est là, c'est pas normal. L'autre, il t'énerve, c'est son problème. Mais pourquoi tu t'énerves, toi? Je dis, mais je viens de vous expliquer. Non, tu prends pour un brel ou quoi? Je dis, l'autre, c'est une proposition, et toi, tu une décision. Maintenant, ou toi, tu es une action, ou toi, tu es une réaction. Si tu es une réaction, c'est que tu n'existes pas. C'est-à-dire, dans son miroir à elle, il y a un nerveux dans son miroir à elle. Mais dans ton miroir à toi, pourquoi il y a un nerveux? Parce que c'est toi qui décides ce qu'il y a dans le miroir. Donc, le jour où tu vas t'arrêter de penser que tu as le droit de pourrir ta vie du fait que tu peux l'expliquer. Parce que les nazis aussi peuvent expliquer le génocide. Et c'est logique, il faut débarrasser une race pourrie de la terre. Donc tu crois que parce qu'on peut intellectualiser quelque chose, on a le droit de le faire. Alors l'autre, il a intellectualisé son Yetzirah. L'autre, il a intellectualisé sa glande. L'autre, il a intellectualisé le Gezel. Il t'a dit, on prélève le Maraser. L'autre, il a intellectualisé son mensonge. Il te dit, c'est pour le moral. L'autre, il a intellectualisé ses incohérences. Mais t'as pas compris qu'on peut tout intellectualiser. Donc si on peut tout intellectualiser, alors tout est permis. Alors c'est marqué Védover, Emet Bilvavo. Il dit la vérité dans son cœur. La bouche, c'est compliqué, mais le cœur, ça trompe pas. Donc un jour, tu dis, il n'y a plus de mensonge. Et mensonge, c'est pas genre tu mens. Mensonge, c'est incohérence. Donc tu veux plus. Tu dis, à partir de maintenant, je vais pas me justifier, je vais être bien. Non, j'ai des bonnes raisons d'être mauvais, mais je vais être bien. Tu peux le faire. Parce que c'est une séquence. Et tu vas dire, c'est pas grave, je fais la gueule aujourd'hui, je serai gentil demain. Mais le Nitzutz qui s'est révélé maintenant, le Helek Aneshama, il va pas revenir demain. À vous de Minar Olam. Il est perdu. Donc tu dis, cette séquence-là, voilà, je fais une prière, je la fais bien. Après, je rentre à la maison, je fais une bonne conversation. Après, je fais un travail, je suis honnête. D'après la Lacha. Après, je rentre, je fais Mincha, je le fais bien. Après, je rentre à la maison, j'étudie avec mes enfants bien. C'est que des séquences, c'est que des cumuls de séquences positives qui amènent le positif. Mais si je dis là, je fais la gueule, mais j'ai des bonnes raisons. Le travail, je suis voleur, mais c'est normal, c'est la parnassa. Le téléphone, je mens, c'est normal, c'est une mitzvah. Ma femme, je fais la tronche, c'est pas grave, je vais la forcer à m'aimer comme je suis. Ouais. Mes enfants, je les saoule, je les stresse, c'est pas grave parce que mon père, il a pas fait mieux. La télé, je la regarde parce que je m'ennuie. Chaque chose, t'as une raison. Mais c'est de la caca au carré, de la caca au carré, de la caca au carré. Toi-même, tu es devenu un cas d'école. Donc tu décides. L'adulte, il a des solutions. L'enfant, il a des raisons. Un jour, tu dis, il n'y a plus de raisons. Il n'y a que des solutions. Donc tant que tu fonctionnes avec des raisons, et on a tous des raisons, tu ne peux pas t'en sortir. Un jour, tu dis, il n'y a plus de raisons. Il n'y a que des solutions. Et je vous dis, il faut la même énergie pour se pourrir la vie que pour se l'arranger. Il faut la même énergie pour détruire un enfant que pour le construire. Il faut la même énergie pour éclater le business que pour le planter. C'est la même énergie. Parce que l'énergie qu'il faut pour entretenir sa vision négative, il en faut de l'énergie. Donc Hachem y fasse, Bézant Hachem. Qu'on soit capable, ouais, d'avoir cette qualité-là, que sur laquelle la Torah l'a pointé du doigt comme une erreur de la part de Avraham Avinu, s'appelle Kiber, de Yaakov Avinu, Kiber, c'est ça, c'est Kredvat Hachem. C'est-à-dire, la chedva d'Hachem, que vous avez l'amour que vous avez d'Hachem, c'est ça votre puissance. Parce que sachez qu'on peut avoir exactement la même puissance dans le négatif. Mais on a vu déjà ce qui se passe dans la rue avec le négatif. Donc il faut avoir la même puissance avec la simcha, avec la joie. La même, c'est la même. La seule différence, c'est que la joie, elle te demande un effort, alors que l'angoisse, elle ne t'en demande pas. Pour s'angoisser, il faut se laisser aller. Et pour être joyeux, il faut être actif. Ah, maintenant, si tu vas me dire, alors tout ça pour me dire qu'il faut faire des efforts. Alors, ça dépend. Comment tu écris? Si tu écris tu es fort, tu, T-U-E-S, fort, F-O-R-T, ou tu écris tu, E, deux F-O-R-T. T-U, E, deux F-O-R-T. Tu es fort. Maintenant, quand toi, tu t'identifies à l'effort, l'effort n'est plus un effort. Maintenant, pour quelqu'un d'être fort n'est pas un effort. Maintenant, comment on appelle être fort? Gibor. C'est quoi Gibor? Gever. Ezeu Gibor. Ekoesh et Titzrou. Donc, c'est quoi l'Yetzerara? C'est une invitation à être faible. C'est quoi l'Yetzeratov? C'est une invitation à être fort. Donc, quand toi tu es fort, le Yetzerara est faible. Quand toi tu es faible, le Yetzerara est fort. Maintenant, toi tu es fort. Donc, c'est normal de faire des efforts quand tu es fort. Et fort, c'est quoi? On a dit, c'est mature, c'est guévert. Tu dis, j'arrive pas, c'est trop dur. Alors, tu as d'autres solutions. Quand tu veux pas faire tu et fort, c'est ce que tu fais. L'effort tue. Les gens, ils te disent, ça me tue. Tu me demandes d'être gentil, tu me demandes d'être souriant, tu me demandes d'être travailleur. Mais je fais, t'as 34 ans, baba. C'est normal de travailler à 34 ans. Tu sais étudier, il faut étudier. T'es marié, il faut être gentil. J'arrive pas. Elle m'énerve. Ça s'appelle Ezeu Gibor à Kovesh et Titro. Ça veut dire que t'as un yetzera d'être méchant, il faut être gentil. Je dis maintenant, est-ce que c'est parce que tu es faible que tu ne fais pas d'effort, ou est-ce que c'est parce que tu es fort que tu ne fais pas d'effort? Eh bien, je vous dis, c'est pas un apprentissage. C'est une décision. Un jour, t'as décidé, t'as dit, maintenant, à partir de maintenant, je vais arrêter. Comme le médecin, il dit, écoutez, encore deux semaines, et on offre vos poumons aux autoroutes. Le mec, il a 4 paquets de gitanes sans filtre, il arrête le jour même. C'est comme ça. T'as décidé, c'est fini. Ça va? Ah, tu dis, mais comment je vais le mettre en place? Tu vas le mettre en place. Mais la décision, elle est 100%. C'est fini. C'est une autre métier. Vayu advarim aile asher anochi mitzavecha ayom. Donc c'est ça l'idée. Si vous comprenez ça, ça veut dire que toutes les portes sont ouvertes. Tout est possible. Qu'Hachem nous aide. Moi le premier, d'accord? Parce que je ne peux pas vous transmettre une chose que je ne vis pas. Donc j'essaie de le vivre pour qu'on puisse, Bézant Hachem, grandir. Et quand pour nous, on accepte cette logique de maturité et cette logique de réalité, sachez que Mashiach, c'est une Metsiout. C'est tout. C'est pas un événement, c'est pas un temps, c'est une Metsiout. Quand la Metsiout, elle est claire chez nous, elle est claire dehors. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Vous comprenez cette logique-là? Voilà. Qu'Hachem amène des bonnes nouvelles. On demande une refoua shelema pour Shlomo, Yaakov Shlomo ben Louisa. D'accord? A priori, c'est votre rabbin. Donc Hachem, il envoie une refoua shelema. Et aussi pour Simcha Matzlecha, pour Hana Bat Aziza, faut dire Amen, c'est, chez les juifs c'est comme ça. Et pour Rav Azimov, Rav Yosef Haïm Ben Simcha Citruc, Rav Shlame, Rivka Bat Deborah, David Ben Miriam, Shalom Ben Matilda, Shimshon Ben Shlomo, Shneor Zalman Ben Ephraim, Ashkomo Zalman Ephraim Ben Esther, Maya Bat Mama, Yitzhak Ben Fortuné, Rivka Bat Hana, Yaakov Ben Esther, Guy Ben Rose, Moshe Daniel Ben Ruchama. Amen. Donc que les prénoms. Chaya Bat Esther, Shalom Ben Lisa, Aliyah Bat Rasiba, Shimon Ben Shlomo. Qu'Hachem leur amène une réfoua chez les mains parmi tous les malades d'Israël. Et à ma vie, Ben Chaim Lemetim, que Hachem il élève toutes les neshamot des tzadikim d'Israël dans la Maïmet, et en particulier pour mon père, Abraham Shimon Ben Simcha, et tous les gens auxquels vous pensez, que des bonnes nouvelles. Maintenant, les gens qui veulent réfléchir, profiter, évoluer, grandir, il y a des cours qui sont mis par, qui ont été enregistrés, il y a les livres qui ont été écrits, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je conseille, des gens des Yeshivot maintenant, ils commencent à étudier sur les livres. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de concentré. Raf Frankfortin, je lui ai offert le livre, il m'a dit, je l'ai acheté, il m'a dit, vous m'avez fait gagner 10 ans. Donc, c'est beaucoup d'enseignements. Maintenant, ils sont là à votre disposition. Je sais que c'est pas évident, parce que c'est quand même 20 euros pour 30 années de Yeshiva, donc je comprends que les gens, ils peuvent avoir du mal à investir. Mais, comme je répète à chaque conférence, étant donné que c'est pas du business, si vraiment quelqu'un, il a un problème, il vient me voir, il me dit, Rabbi Yahya, 20 euros, pour moi, c'est beaucoup, c'est 14 repas, il me fait un clin d'œil, et il va prendre le livre gratuitement, avec plaisir. Ça serait une joie pour moi. Je préfère qu'il soit chez vous, en train d'être étudié, que chez moi, prendre la poussière. Voilà. Bonne continuation. Merci de votre accueil.